Suite du journal et des lettres de John Bunny et épître aux amis de Long Island. Long Island, le 23 du 5e mois, 1666. Bien-aimés, vous qui êtes appelés à être des saints et à croire au Fils unique Dieu le Père, que celui-ci a ressuscité pour être la corne du salut dans la maison de son serviteur David, afin de régner à jamais sur les rachetés en Israël, à vous mon cœur s'ouvre dans un amour pur et sans fin, et dans l'abondant écoulement de ce même amour en ce temps, mon âme vous salue tendrement, vous tous qui demeurez fidèles au bien-aimé et vivez, dans la puissance de son salut, au-dessus de tous les esprits déchus qui sont dans le monde. Avec vous, mon âme est en unité dans la vie qui était avant la transgression et la chute, et en cela, mes amis, vous êtes écrits dans mon cœur et souvent dans mon souvenir, même lorsque ma supplication est répandue devant le Seigneur en faveur de son peuple, afin que vous, en ce lieu, parmi le reste de son troupeau céleste et les brebis de son propre pâturage, soyez gardés en sûreté par la droite sa puissance du dévorateur et des pièges trompeurs de l'ennemi, qui sont dressés comme des trappes par les ruses agiles de Satan. Moi aussi, comme un frère et comme quelqu'un qui vous aime entièrement de cet amour sans fin, qui ne pense aucun mal, je vous supplie en ce temps dans la crainte de Dieu, de veiller à marcher avec circonspection conformément à l'évangile de Christ Jésus en lequel vous avez cru, afin que vous lorgniez dans vos vies et dans votre conduite, comme des enfants de la lumière et du jour, portant les fruits de l'esprit dans la justice et la vraie sainteté, et non les fruits de la chair dans la nuit et dans les ténèbres, où marchent ceux qui ne suivent pas le. Tenez donc ferme dans votre liberté, en laquelle le Christ Jésus vous a rendu libre, et ne vous laissez pas enlacer par le joug de la servitude, mais considérez avec pureté l'opération de l'Esprit éternel et de la puissance invisible du Dieu éternel, qu'il a rendu manifeste et révélée dans vos cœurs, par laquelle vous avez en mesure, connu la liberté hors de la servitude de la corruption le lien corruptible, et goûté la glorieuse liberté des fils de Dieu, en laquelle vos âmes ont trouvé leur plaisir. Que tous veillent à son opération vivifiante dans vos cœurs, et l'attendent avec diligence, afin que vos cœurs soient gardés purs, et que l'œil de votre intelligence soit simple, pour que vous puissiez distinguer clairement et faire la différence entre le précieux et le vil, entre ce en quoi le Seigneur doit être adoré et ce en quoi il n'y a aucune acceptation auprès de Dieu. Ainsi, vous viendrez de plus, en plus à savoir choisir le bien et refuser le mal. Dans la liberté de l'Esprit de Dieu, et dans sa crainte, je vous avertis tous, prenez garde à une liberté charnelle, au-delà ou au-dessus de la crainte pure, qui garde le cœur net, car elle laissera entrer des souillures, remettra le juste en servitude et ramènera vos âmes à la mort, ou manquera la pure présence de Dieu pour les rafraîchir, même si le vantard se vante de liberté et la promet, comme il le faisait au jour des apôtres, eux qui étaient eux-mêmes serviteurs de la corruption. Ainsi donc, mes chers amis, que mon âme aime d'un amour céleste qui cherche le bien de tous, vous qui avez goûté l'amour de Dieu et la puissance du monde à venir, ainsi que la puissance de cette vie qui est sans fin, demeurez constant dans la foi envers le bien-aimé de vos âmes, et n'allez pas courir au dehors pour changer votre voie, comme celle dont les pieds ne restent pas dans sa maison, mais courent après d'autres amants, perdant ainsi le premier amour. Car de cela, le Seigneur reprit l'Église au jour de l'entrée de l'apostasie, lorsqu'ils commencèrent à décliner de la pureté de l'Évangile. Puisque vous avez reçu ce qui est immuable, vivez-y, afin que vos âmes ne meurent jamais au sentiment de l'amour de Dieu et à la perception de sa présence vivifiante, afin que dans la joie et la paix ineffable et pleine de gloire, vous demeuriez et viviez à jamais, où vos âmes seront rafraîchies de jour en jour et de temps en temps, par la multiplication de ses innombrables miséricordes, par lesquelles il nourrit tous ceux qui le craignent et l'attendent. Ainsi vous demeurez tous vivants et vertueux, dans un état de croissance et d'épanouissement, fécond, portant du fruit à sa louange, lui qui vous a appelé. Et comme vous demeurez dans la puissance de Dieu, qui est la croix pour cette part qui voudrait sortir, et que vous y habitez, votre esprit sera établi, affermi et gardé net, et l'intelligence ouverte, par quoi vous pourrez contempler la gloire de Dieu et être gardé dans l'alliance avec lui, et ainsi vous nourrir de ses miséricordes avec tous ses agneaux et ses enfants, et vous coucher dans l'enclos du repos et de la sécurité avec les brebis de son pâturage, en alliance avec lui pour toujours, en quoi je demeure votre ami et frère, John. Vers la fin du 6e mois, je pris la route vers Sandwich, et lorsque j'eus terminé là, je poursuivis par Plymouth jusqu'à Tewkesbury, puis à Marshfield et Scituate, et à Boston, où je visitai les amis et tins des réunions. De Boston, j'allai à Salem, puis à Piscataqua. Quand j'eus terminé là, je revins en passant par les réunions, et j'arrivai à Hampton, Salem, Boston, Scituate, Marshfield, puis par Tewkesbury et Plymouth jusqu'à Sandwich, et de là à travers les bois jusqu'à Ponygansett, et de là encore jusqu'à Rhode Island. Après y avoir passé quelque temps, je m'embarquai pour Long Island, afin de visiter les amis de ces régions, et lorsque j'eus terminé, je retournai de nouveau à Rhode Island en hiver et y demeurai quelque temps, car il était impossible de quitter l'île pour le continent, tant la neige était profonde. Vers la fin du premier mois, je m'embarquai pour la Barbade, et j'y débarquai au second mois, 1667, où je passai cet été-là. J'y eus un service béni et réconfortant parmi les amis, avec de grandes et pleines assemblées. La puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, et plusieurs furent rassemblés dans l'amour de la vérité. Au 7e mois, je m'embarquai pour Bristol, en Angleterre, et après 10 semaines en mer, sauf un jour ou deux, ayant été repoussé au large par une tempête d'est et maintenu en mer dans une grande tourmente pendant la majeure partie de 2 semaines, nous entrâmes enfin dans le Milfort Haven, où je débarquai vers le 27 du 9e mois, 1667. Aux amis de la Barbade, de Nouvelle-Angleterre, de Virginie et du Maryland, l'expression de mon plus pur amour pour vous tous, parmi lesquels j'ai voyagé dans ces contrées. Amis, demeurez dans la vérité éternelle et la puissance du Seigneur Dieu, et gardez vos demeures dans ce qui ne change point, dans la puissance d'une vie sans fin, où il n'y a aucune ombre de variation. Vous tous qui avez connu le Seigneur et qui avez ressenti dans vos cœurs la parole de sa puissance éternelle, par laquelle vous avez été vivifiés pour lui, de sorte qu'avec le reste de ses bien-aimés vous avez été rendus participants de ce trésor céleste de vie et de vertu qui est en lui et qui nous est manifesté par son Fils, par qui la vie et l'immortalité sont mises en lumière, à vous tous sans exception de personne, c'est en l'amour de mon âme et en ce temps le salut de ma vie, vous ayant vivement en mémoire. Dans un amour véritable, mon cœur s'ouvre et mon esprit se répand dans cette parole d'exhortation vers vous tous, qui avez goûté que le Seigneur est bon, afin que vous preniez garde de vous détourner de la grâce de Dieu pour tomber dans la licence, la lascivité ou quelque vanité que ce soit, par quoi vos cœurs pourraient être souillés, mais que vous veilliez tous à la vérité et attendiez la puissance conservatrice du Seigneur Dieu, afin que vous régniez dans sa domination sur toutes les convoitises mauvaises de la chair, qui voudraient s'élever dans vos cœurs. En vérité, amis, vous devez y prendre garde, à l'esprit de sainteté et à la puissance du Seigneur notre Dieu, quand ces derniers temps il a largement manifesté pour sanctifier son peuple, afin que vos cœurs soient gardés nets et préservés, selon le commandement du Christ, hors de l'étouffement par les soucis de cette vie, et de l'état d'être vaincu et noyé dans les plaisirs et les vanités de ce monde, de sorte que vous ne perdiez jamais l'excellence et la gloire de ces choses célestes que Dieu le Père, dans l'abondance de sa bonté aimante, a jugé. Ainsi, mes chers amis, vous qui sentez le Seigneur et sa bonté dans vos cœurs, marchez avec circonspection devant lui, avec révérence et crainte de Dieu, dans la sainte appréhension, afin de ne jamais le provoquer ni attrister son Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés, mais avec tendresse de cœur et pureté d'esprit, attendez-le en tout temps. Alors votre paix jaillira comme un fleuve et votre justice se multipliera comme les vagues de la mer, et au-dessus de tous les soucis étouffants de cette vie et des plaisirs qui noient de ce vain monde présent, vous serez préservés afin d'avoir part à la puissance de cette vie qui est sans fin, dans laquelle, en y demeurant fidèlement, vous croîtrez et augmenterez tous dans la domination sur toutes les convoitises nuisibles, qui font la guerre à l'âme dans chacun de vos cas particuliers. Et aussi il y aura une croissance au-dessus de tous les esprits nuisibles, entrés depuis le commencement, dont la vie est dans la chute et non dans la rédemption pure, ni dans la puissance rédemptrice qui fait sortir de la chute. Ainsi soyez tous fidèles au Seigneur Dieu, chacun dans sa place, afin d'être une bénédiction pour votre génération dans les pays et lieux où vous demeurez, afin que les nations soient assaisonnées, que votre vie pleine de saveur adoucisse les peuples. Et amis, ayez l'œil à la gloire de Dieu et à l'honneur de sa vérité dans toutes vos entreprises, je vous le commande même dans sa crainte, cela m'étant imposé par son esprit, afin que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé parmi les païens par votre infidélité. Car en vérité, mon amour étant grand envers vous, je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, et c'est pourquoi je suis contraint d'user d'une grande franchise, ayant le sentiment de votre état. C'est pourquoi soyez poussés à l'amour et aux bonnes œuvres, dans une obéissance fidèle et dans le service de la puissance, car c'est en cela que tous sont agréés. Rejetez toute colère, toute clameur et toute médisance avec toute amertume, et recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. Demeurez dans sa puissance, et elle discernera justement entre le précieux et le vil, et retranchera ainsi tout ce qui n'est pas de Dieu, sans se soucier de ce qui peut être professé, partout où la vertu vivante fait défaut. Cette parole pure et vivante est votre gardienne, demeurez-y fidèle, et elle vous gardera de tous les esprits trompeurs et menteurs, qui ne sont pas du Père mais du monde, ainsi que du Dieu de ce monde dans la puissance des ténèbres, qui séduit l'âme instable par ses signes et prodiges mensongers dans la puissance des ténèbres, sans vertu vivante. Cette parole que vous avez reçue vivra dans vos cœurs, et si vous lui demeurez fidèle, elle communiquera chaque jour sa propre vertu à vos âmes pour leur rafraîchissement. Mais si les soucis épineux de cette vie et les plaisirs étouffants de ce monde vain prennent racine et place dans vos cœurs, alors la fraîcheur se perd, l'issue de la vertu vivante se trouve arrêtée, la parole et la puissance qui servent se retirent, la source est de nouveau scellée, et les vents secs et la chaleur brûlante viennent dessécher et faire flétrir la jeune pousse verte, avant que le grain n'arrive à perfection, de sorte que la moisson et le temps de la récolte n'arrivent jamais. C'est pourquoi, ô mes amis, soyez fidèles au Seigneur et ne vous laissez pas détourner de la fermeté de l'Évangile, ni d'un côté ni de l'autre, mais marchez dans le sentier droit de la vie, de la paix et du salut, que le Seigneur a préparé pour vos pieds, afin que les faibles soient fortifiés, les boiteux rétablis, et qu'aucun ne soit écarté du chemin. Car en vérité, beaucoup repose sur vous, je le recèle dans cette affaire, vous tous qui sentez le Seigneur en quelque mesure, que vous soyez tous vigilants et diligents dans vos places, afin d'être une force pour les faibles. C'est pourquoi je suis de nouveau poussé à vous avertir maintenant, vous-même qui connaissez le Seigneur, prenez garde à la puissance du Seigneur Dieu dans vos cœurs, et par elle maintenez abaissé l'esprit terrestre et mondain, afin de vivre au-dessus de lui dans l'esprit et la puissance du Seigneur, et d'en attirer davantage, sinon, je le sens, vous ne serez pas seulement coupable de votre propre sang, mais aussi du sang des autres, qui trébuchent à cause de votre infidélité, vous qui avez été appelés et comptés comme les prémices pour Dieu et pour la. Ainsi, mes amis, sachez par ceci que je suis arrivé sain et sauf en Angleterre, et que je vais parfaitement bien à tous égards. Les amis ici vont généralement bien, les réunions sont très grandes, et la vérité est en bonne estime auprès de beaucoup de gens qui ne sont pas encore des nôtres. Et il y a une grande ouverture en tous lieux où je suis allé, dans les cœurs de tous les gens, et de grands désirs d'entendre la vérité, car elle est en bonne renommée. De moi, qui demeure votre ami et frère, John Bunny est ensuite je montai à Haverford West, dans le Pembrokeshire, au pays de Galles, où je rencontrai une réunion des amis le même jour, et je restai 4 semaines dans ce comté, et eus de nombreuses réunions bénies. Lorsque j'en eus terminé, je pris la route vers Swansea et visitai les amis là-bas. Puis je montai vers Cardiff et ainsi dans le Monmouthshire, et après y avoir visité les amis, je traversai l'eau et arrivai à Bristol, où je restai pour quelques réunions, puis je passai dans le Gloucestershire et le Berkshire, et ainsi jusqu'à Londres, où je demeurai quelque temps. L'épître suivante n'a pas d'adresse spécifique. Bristol, le 25 jour du 11e mois, 1667. Très cher bien-aimé, avec qui dans l'alliance de vie, de lumière et de paix je ne fais qu'un, et en laquelle je suis avec vous, et en esprit je vous atteins dans cet amour que de grandes eaux ne sauraient éteindre, en lequel mon âme, en ce temps, vous salue tous très tendrement, vous qui êtes nés de nouveau de la parole immortelle et qui demeurez dans la vie de la vraie semence. Mon désir est que le Seigneur vous préserve tous, afin que, tels des plants vivants dans la vigne de Dieu, vous fleurissiez et portiez des fruits de justice, et que vous soyez ainsi un honneur pour le Seigneur dans votre génération, et alors vous n'aurez pas à douter que le Seigneur ne vous honore dans la gloire de son royaume, qui est sans fin. C'est pourquoi, amis, vous tous, ayez à cœur de vivre dans la vie de justice, dans la puissance qui est sans fin, afin que des fruits de sainteté, dans une conduite selon Dieu, soient produits par vous tous, par quoi l'évangile de paix et de salut se trouve orné. Ainsi tous en viendront à connaître l'effet de la justice, qui est la paix et l'assurance pour toujours. C'est à cela que vous devez tous être attentifs, afin que la preuve de la paix, par le témoignage de l'Esprit vivant dans tous vos cœurs, vous la sentiez renouvelée chaque jour. Ce qui ne se fera pas sans demeurer et vivre dans la vie de justice, quelques notions de profession que l'on puisse maintenir dans un esprit erroné, et non dans la puissance et la vie de justice. Car ce témoignage est vrai et vivant, il sonde étroitement sous tous les voiles, il perce tous les rideaux, il entre dans le parvis intérieur et pénètre jusque dans les chambres secrètes pour voir ce qui peut y subsister ou y être adoré. De sorte qu'il est vain de couvrir quoi que ce soit en ce jour où le scrutateur de tous les cœurs est apparu, et il est venu celui dont le van est en sa main, qui siège comme un feu d'affineur et comme le savon du foulon pour nettoyer et purifier sa tribu choisie, afin qu'il soit un peuple particulier, une génération élue et un sacerdoce royal, pour publier les louanges de celui qui a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est pourquoi, mes chers amis, marchez tous devant le Seigneur avec des cœurs ouverts et une nudité d'esprit, ne cherchant aucun autre voile que celui de l'esprit dans la vie de justice, afin que vous ayez tous dans vos cœurs son témoignage et son attestation, pour témoigner avec vous en vue de la justification, afin que vous soyez revêtus de la robe blanche de justice dans la puissance de l'agneau, et que vous deveniez roi et prêtre pour Dieu, régnant dans la puissance de l'esprit de l'agneau, sur ce qui ne peut jamais offrir un sacrifice. Ainsi dans la vie de celui qui est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, selon la parole de la promesse et du serment, vous serez un sacerdoce royal, offrant au Seigneur un sacrifice acceptable. Et très cher bien-aimé, à vous envers qui mon cœur s'ouvre dans un amour pur, gardez vos demeures dans la vie du Fils, dans la vie du prêtre qui vit à jamais, afin de n'être jamais rejeté. En lui, le Père a mis son bon plaisir, en lui, toutes nos offrandes sont acceptées, et sans lui vous ne pouvez rien faire. Tous les voiles et toutes les robes sans lui ne sont que des haillons souillés, et tous les vêtements sans sa puissance et la vie de justice ne valent pas mieux qu'une abomination aux yeux du Seigneur. Gardez donc vos vêtements propres, vos cœurs purs devant le Seigneur, afin de ne jamais perdre l'acceptation, et considérez la vie de la puissance dans vos cœurs, et votre vie en elle pour Dieu le Père. Afin que, comme nous avons été vivifiés ensemble dans la résurrection de la vie de même, en cette même vie, nous adorions le Père à jamais. Ainsi en cela, mon âme vous salue une fois encore très tendrement, vous, enfants de l'Alliance et du jour béni de Dieu Tout-Puissant, qui marchez dans la lumière. Je ne vous ai point oublié, bien que, extérieurement, nous ayons été séparés, mais l'amour ancien a vécu dans mon cœur, ce qui fait naître en moi de puissants désirs vers le Seigneur, afin que, dans sa volonté, je puisse voir vos visages, ce que j'espère sera accordé en son temps. Jusqu'alors, je me livre librement à sa volonté, satisfait de l'union invisible et de la communion dans l'esprit que j'ai avec vous, que ni le temps ni l'éloignement des lieux ne peuvent user, parce que cette vie et cette puissance qui sont éternelles sont connues, et que cet amour qui ne change pas est goûté en lequel je ne fais qu'un avec vous, et demeure votre frère dans l'alliance, où le péché est effacé, où la justice éternelle est produite, en laquelle nous adorons le Père d'une manière agréable. John Bunny après en avoir terminé. Quand j'eus terminé dans ces contrées, je fus poussé à repasser de nouveau par les réunions dans le sud du pays de Galles, puis à Gloucester, et à travers le Gloucestershire et le Berkshire, jusqu'au Buckinghamshire, puis à Londres, où je passai quelque temps cet été-là, en l'année 1668. Après cela, j'allai dans le Surrey voir George Fox, qui voyageait alors parmi les amis de ces régions, pour aider les amis à établir leur réunion d'hommes, et aussi pour les stimuler à visiter ce qui s'était éloigné de la vérité et avait reculé, afin de voir s'ils pouvaient être restaurés et ramenés au sentiment de l'amour de Dieu, et ainsi au salut et à la vie. Ce travail se révéla très efficace pour gagner beaucoup de personnes. Après avoir été un peu avec lui, et à Rochem, avec quelques amis venus de Londres avec moi, pour visiter des amis qui y étaient prisonniers pour le témoignage de la vérité, je retournai de nouveau à Londres, et pris la route vers le nord de l'Angleterre, par le Hertfordshire et le Huntingdonshire, puis descendis dans le Yorkshire. Je passai quelque temps à visiter les réunions autour de Knaresborough, Netherdale, Masham, Thirsk et les environs, puis je fus poussé à descendre vers Craig et Malton, puis à Killam et Burlington, Scarborough et Whitby, et dans le Cleveland, puis encore dans le Bishopric. Après y avoir passé quelque temps, je traversai Stainmore et entrai dans le Cumberland, et je rentrai chez moi pour voir mes amis et mes parents. Je n'y restai qu'environ une semaine, ou quelques jours de plus, puis je pris la route pour Londres pour la réunion annuelle, fixée vers le début du dixième mois, et j'y demeurai environ une semaine ou deux. Ensuite, je repris la route vers l'ouest, à travers le Berkshire et le Gloucestershire, et vers le sud du pays de Galles, jusqu'au Pembrokeshire, visitant les réunions et servant le Seigneur et son peuple avec fidélité dans les travaux et les voyages de l'Évangile de Christ Jésus. Quand j'eus terminé dans ces régions, je revins de nouveau par le sud du pays de Galles à Bristol, puis à travers les comtés, visitant les églises jusqu'à Londres, ce printemps-là, en l'année 1669. Je restai environ deux mois dans et autour de la ville, puis je fus poussé de nouveau à aller dans le Buckinghamshire, puis à travers le pays, visitant des réunions dans de nombreux endroits, jusqu'à ce que j'arrive à Bristol, et j'étais à Bristol vers le 25 du cinquième mois, 1669. De là, je retournai au pays de Galles et traversai le sud du pays de Galles jusqu'au Pembrokeshire, et de là, je pris la route à travers les montagnes vers le nord du pays de Galles et visitai les amis dans le Radnorshire, puis j'arrivai à Shrewsbury, puis dans le Cheshire, et à travers le Lancashire et le Westmoreland, rentrant chez moi dans le Cumberland, où je demeurai un peu et visitai les amis. Je m'embarquai à Whitehaven pour l'Irlande et débarquai à Belfast, au nord, et passai cet hiver-là en Irlande dans les voyages et le labeur de l'Évangile, et j'eus un service béni pour le Seigneur et son peuple en cette nation, et je fus abondamment consolé et rafraîchi parmi eux dans la présence gracieuse du Seigneur, qui était avec nous, lui qui rend et récompense richement tous ceux qui se donnent fidèlement pour le servir. Ainsi, désormais, nul ne perd sa récompense sous le ministère de l'Évangile, pas plus qu'il ne la perdait sous la loi dans la figure, lorsqu'il dit « Qui y a-t-il parmi vous qui fermerait les portes pour rien ?» De sorte que vous n'allumeriez pas de feu sur mon autel pour rien. Malin 10, à lui soit gloire, honneur et louange sur toutes choses à jamais, car il en est digne. Lorsque j'en eus terminé avec cette nation, je m'embarquai à Dublin et débarquai à Whitehaven dans le Cumberland. Je restai un peu de temps dans le Cumberland, puis je pris la route pour Londres pour la réunion annuelle, qui eut lieu au printemps de l'année 1670, et je passai une partie de cet été-là à Londres et aux alentours, au service de la vérité, jusqu'à ce que je puisse avoir l'occasion de partir pour la Barbade, cela étant sur moi. Astérisque, astérisque, cette année-là, 1670, l'acte contre les conventicules séditieux commença à être en vigueur, et ce Samuel Stirling, alors Lord Maire de Londres, exerça immédiatement son autorité pour le mettre à exécution. Des guetteurs et des soldats furent placés en garde à nos diverses maisons de réunion dans la ville, soit pour empêcher les amis d'entrer dans leurs maisons de réunion, soit pour empêcher la prédication. John Bunny, étant à Devonshire le 15 du mois appelé mai, et ayant commencé à parler, fut rapidement tiré vers le bas et traduit devant le maire, qui le condamna à une amende de 20 livres. Le 29 du même mois, John Bunny, tentant de prêcher dans la même maison de réunion, fut emmené par des soldats et envoyé par le maire à Newgate. Bess Suffering the Free Hand, vol. 1 p. 409. Chapitre Yves, en 1670, repart pour la Barbade avec William Simpson sa mort, visite la Nouvelle-Angleterre et d'autres parties des États coloniaux, rencontre George Fox, ses voyages et son service dans ces pays. Au cinquième mois, tout étant prêt, William Simpson et moi descendîmes à Gravesend avec de nombreux amis de Londres, qui nous accompagnèrent, et n'y restant que quelques jours, nous appareillâmes de Gravesend le huitième jour du cinquième mois, 1670, et gagnâmes les Downs, où nous restâmes quelques jours, puis nous appareillâmes des Downs le vingtième jour du même mois. À cause de vents contraires, nous entrâmes à Falmouth et y restâmes deux nuits, puis nous reprîmes la mer et fîmes voile vers la Barbade, où nous arrivâmes le trentième jour du septième mois, de sorte que nous fûmes 12 semaines depuis Gravesend avant d'atteindre la Barbade. Je restai à la Barbade 6 mois, et j'eus un service important et de grand poids dans cette île avant de pouvoir en être dégagé. Épître aux amis de la Barbade, Barbade, le 30 du 11e mois, 1670. Chers amis, je porte une grande épreuve dans mon esprit au sujet de la récente observance d'un jour, ou d'un jeune, qui a été proclamé et prétendu, et voyant l'orgueil et la vanité où les gens se trouvaient, non comme de véritables affligés et jeûneurs, tels que ceux qui voudraient que le jugement soit retiré, et voyant aussi la mère cruauté qui est apparue comme une part de ses fruits, et la différence qui semblait apparaître dans l'esprit des amis, quant à le reconnaître ou non, en se soumettant à leurs exigences, ou en faisant le contraire comme Et alors, dans une révélation céleste, mon intelligence étant ouverte et s'accordant avec la parole, il me montra que tout ce qui se tenait dans le témoignage de Dieu devait y témoigner contre, et que ceux qui voudraient affaiblir l'esprit de quiconque dans son témoignage en ceci ou en d'autres choses, en lesquelles les amis ont un témoignage pour Dieu, il me fut clairement montré de la part du Seigneur comment ils tiraient un voile sur le pur en eux-mêmes et en autrui, et dans un esprit lâche et abattu par la sagesse corrompue et déchue. De sorte que nous, comme d'autres professants, serions finalement conduits par cet esprit à céder à n'importe quoi plutôt que de souffrir, et alors le scandale de la croix pourrait cesser. Et il y avait une autre chose, qui avait été très longtemps sous ma considération, au sujet de laquelle je n'étais pas prompt à juger, en quoi les amis ont quelque peu différé, mais en ce temps-là, je ne m'y appliquais pas, à cause de l'autre chose qui pesait sur moi. Mais lorsque le Seigneur eut éclairci l'autre point pour moi, il amena aussi celui-ci devant mon esprit. Il s'agit d'envoyer des hommes, des chevaux et des armes aux exercices, aux parades ou aux jeux, ce qui est folie pour nous. Et pour cela, beaucoup de ceux qui ne pouvaient envoyer ont souffert la confiscation saisie de biens comme amende de leurs biens. Le Seigneur me satisfit clairement que c'était son témoignage, en lequel les amis devaient se tenir, et que ceux qui portaient un autre témoignage, soit en parole soit en acte, le faisaient de cet esprit selon cette sagesse qui mettrait un boisseau sur la chandelle allumée, et peu à peu l'éteindrait, et nous conduirait à nous courber devant l'esprit du monde, jusqu'à ce que sa largelle de ténèbres nous couvre de son ombre et devienne notre voile, et alors nous serions comme d'autres qui ont perdu leur témoignage. Et lorsque le Seigneur eut fait cela, oh, comme mon âme fut remplie d'un amour céleste et divin envers tous ceux qui souffrent volontairement pour le témoignage du Seigneur. De sorte que je puis dire qu'il en fut de moi comme de Déborah lorsqu'elle dit que son cœur allait au chef d'Israël qui s'offrait volontairement parmi le peuple, et alors je ne pouvais que louer le Seigneur. Et voici le témoignage que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je suis mû par lui à publier, pour la consolation et la satisfaction de tous ceux qui désirent servir le Seigneur dans leur génération et garder leur conscience pure, et leurs vêtements sans tache. C'est pourquoi, amis, demeurez dans le premier, car il est le dernier, et il subsistera quand tous les autres failliront. Ne raisonnez pas avec la chair et le sang, mais attendez la puissance, afin qu'elle vous ouvre, et, comme vous êtes gardés ouverts par elle, les merveilles de Dieu qui s'y trouvent vous seront connues, et les profondeurs de Satan seront vues aussi, et il y aura une croissance en justice. Car dans la puissance, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, par laquelle le juste vit, ce qui ne peut être attesté là où le témoignage est abandonné, la lumière couverte et le talent enfoui dans la terre, quoiqu'il puisse être lié dans une blanche serviette d'une belle profession. Car le don ou le talent ne doit être ni caché dans la terre ni lié par quiconque en quoi que ce soit, mais il doit avoir sa liberté, jusqu'à ce que, par sa propre puissance, tout lui soit soumis, afin que Dieu soit tout en tout. Tel est le témoignage que je dois vous laisser en ces matières, et ainsi, soulagé dans mon esprit, dans l'amour durable de Dieu, je demeure votre frère, John Bunyan, mon cher compagnon William Simpson, après y avoir été, fut saisi d'une violente fièvre, qui était très répandue parmi les gens à ce moment-là, et beaucoup moururent. Il ne fut malade qu'environ 6 jours, puis fut emporté. À sa mort, très peu de temps avant son départ, il rendit un témoignage vivant et céleste à la vérité, avec des conseils salutaires à ceux qui l'entouraient, et partit dans la paix et la joie du Seigneur. On peut en voir un récit plus détaillé dans un livre écrit par quelqu'un qui fut avec lui depuis le début de sa maladie jusqu'à son départ. J'étais très souvent avec lui, mais il m'arrivait d'être contraint de le quitter à cause du service qui m'incombait. C'était un homme très innocent, plein de crainte et de révérence, ordinairement très ouvert dans son témoignage, et très doux et agréable. Nous marchions ensemble dans un grand amour et une grande unité, car c'était un homme humble, ayant de très basses pensées de lui-même, et toujours dans le recueillement. Il avait traversé de grandes souffrances, afflictions et cruelles persécutions pour son témoignage et son service, auxquels il avait été appelé. Il subit également de rudes assauts des messagers de Satan et de fortes tentations, par lesquelles il avait été blessé et gravement meurtri, par les ruses de Satan et ses artifices subtils, et il m'en parlait souvent dans notre fraternelle communion et conversation, où nous ouvrions nos cœurs et nos états l'un à l'autre. Dans le souvenir de ces choses, il demeurait très abaissé et tendre, près du Seigneur, il prenait grand plaisir en sa puissance, par laquelle il avait été racheté et son âme délivrée, et qui fut élevée jusqu'à un bon degré de domination, dans lequel il régna à la fin, et avec un grand triomphe quitta cette vie, et il est béni pour toujours. Mon cœur est pleinement satisfait qu'il en est ainsi. Lorsqu'il me fut enlevé, mon cœur fut brisé au-dedans de moi, et mon esprit fut profondément courbé par le sentiment de ma perte, et je ne pouvais que pleurer, quoique non comme ceux qui n'ont point d'espérance, car mon espérance était ferme quant à son bien-être et au gain qu'il avait obtenu. Mais grande fut ma perte, car je fus laissé comme seul, comme cela m'était souvent arrivé auparavant, à porter moi-même le fardeau, qui était très lourd sur moi en ce temps-là, compte tenu de l'état de l'Église dans cette île et du soin qui m'en incombait, mais le Seigneur était avec moi, et sa puissance m'assista pour accomplir ma charge, me justifier et me libérer du sang de tous les hommes et de toutes les femmes. Tous étant conduits par son esprit dans sa sagesse, les enfants et le peuple du Seigneur furent consolés, et mon âme et mon esprit rafraîchis et ranimés. Et dans la paix, la clarté et la joie, je partis et m'embarquai pour la Nouvelle-Angleterre, appareillant le premier du second mois, 1671. J'arrivai à New York le 27 jour du même mois, et de New York je me rendis à Long Island, et visitai les amis sur l'île et dans d'autres lieux des environs, et j'étais avec eux à leur réunion semestrielle à Waste Bay. Lorsque j'eus terminé dans ces régions, je m'embarquai pour Rhode Island, et j'étais à leur réunion annuelle, en 1671, qui commence le 9e jour du 4e mois chaque année et se poursuit une grande partie d'une semaine, c'est une réunion générale une fois l'an pour tous les amis de Nouvelle-Angleterre. Après cette réunion, lorsque j'eus terminé dans ces régions, je pris la route vers Sandwich et visitai les amis tout le long, à Tewkesbury, Marshfield et Scituate, puis à Boston, où j'eus une réunion, puis à Salem, Hampton et Piscataqua tout le long en visitant les amis. Et j'eus beaucoup de réunions précieuses, et le Seigneur était avec nous, et sa puissance était au-dessus de tout. Il ne paraît pas à qui l'épître suivante était adressée, mais probablement, d'après sa teneur, à ses frères souffrant en Angleterre. Salem, en Nouvelle-Angleterre, le 30 du 4e mois, 1671. Très cher et bien-aimé, vous que le Seigneur a appelé à croire et à participer à sa nature divine et à ses miséricordes multiples, afin que par leur force, vous puissiez rendre témoignage à son nom et attester sa vérité en votre jour, pourquoi le Dieu de sagesse vous laisse être éprouvé, et votre foi mis à l'épreuve, comme cela a été sa manière en tous âges pour l'épreuve de son peuple, afin que leur cœur soit éprouvé et que leur amour apparaisse, combien il a de poids pour celui qui les a aimés, par quoi la gloire de la vérité. Et maintenant, mes amis, voici votre jour et votre heure d'épreuve, en lesquelles le Seigneur, par vous, je le crois, sera honoré, et vous serez récompensé de cette bonne récompense qui l'emportera sur toutes les souffrances présentes, auxquelles la gloire du monde présent ne saurait être comparée. Et bien qu'il me soit échu d'être séparé de vous, et de ne pas souffrir parmi vous de la même manière, pourtant je ne puis dire que je ne souffre pas avec vous, car mon esprit n'est pas sans ressentir vos souffrances. Ô chers agneaux du troupeau du berger, est-il ainsi que le loup cherche à dévorer, et que le lion et l'ours dévorant sont lâchés, voulant emporter les agneaux? Ne craignez point, même si vous étiez dans sa gueule, nous avons un berger qui délivrera, et comme David, sauvera de la puissance du destructeur, de sorte que votre vie ne tombera pas sous sa puissance, car Dieu est du côté d'Israël pour préserver, quand bien même il voudrait les engloutir tout vifs. C'est pourquoi, que votre confiance soit à jamais dans le bras de sa force, et vous connaîtrez qu'il est capable de vous rendre tout au centuple. Très cher bien-aimé, mon cœur même et mon âme vous saluent tous dans cette vie que rien de visible ne peut arrêter. Et dans le sentiment et la jouissance de celle-ci, je suis spirituellement avec vous, en sorte que je puis dire, je participe avec vous tant aux souffrances et tribulations qu'à la joie et à la consolation qui abondent dans vos âmes, comme récompense de votre obéissance et de votre fidélité envers le Seigneur, qui vous y a appelé et vous a suscité pour cela. Que nul ne regarde en arrière ni ne se laisse abattre, car la cause est celle du Seigneur, et il se tiendra près de vous, il plaidera votre cause contre tous ceux qui s'élèvent contre vous, et il mettra votre justice en lumière de plus en plus, et montrera qui sont les siens, approuvés à ses yeux. Il découvrira aussi et mettra à nu la cruauté de tel, et manifestera ceux qui, extérieurement, devraient se montrer comme des brebis, mais qui, intérieurement, sont rapaces et donc des loups ravisseurs, et ils travaillent à ravager l'héritage du Seigneur pour dépouiller son troupeau. Ce sont de tels qui ne voudraient pas que les agneaux paissent paisiblement dans le vert pâturage du bon plaisir du Seigneur, ni qu'ils reposent tranquillement dans l'enclos du vrai repos. Mais béni soit le Seigneur à jamais, il en a amené beaucoup sur la montagne de sa sainteté, où ils ne feront ni mal ni destruction, comme il l'a promis. Que tous donc veillent à demeurer là sans être ébranlés, et le trésor sera connu, et les richesses reçues, que tous les pillards de Babylone et les gens de guerre d'Égypte ne pourront pas vous ravir. Car c'est de là qu'ils viennent tous pour dépouiller Sion et lui dérober sa gloire. Mais le Seigneur est son défenseur, et son roi est au milieu d'elle, et le salut l'environne comme des murs et des remparts, gloire, honneur et louange au Seigneur notre Dieu, pour les siècles des siècles. Car il a pris pour lui sa grande puissance, et il va de victoire en victoire pour vaincre encore, et il choisira ses desseins et accomplira ses propres projets malgré tous ses adversaires, de sorte que quand il pense abattre, lui bâtit, et par la voie même dont il pense détruire, il établira, et ainsi réparera les rues de Sion en des temps difficiles, et rebâtira ses désolations et réparera ses brèches, comme il a été prophétisé. Puisqu'il en est assurément ainsi, mettons tous notre confiance en lui, pour toujours, et attendons-le, afin que sa puissance soit ressentie par nous, et que son amour et sa vertu soient notre nourriture, eux qui nourrissent l'âme pour la vie éternelle. Chers amis, l'abondance de l'amour de Dieu qui est dans mon cœur envers vous tous, je ne puis que vous la signifier, vous parmi lesquels j'ai été participant d'une miséricorde si précieuse et de riches bénédictions, telles que nous les avons goûtées ensemble, et dont je suis assuré qu'elles abondent encore dans vos cœurs, venant du Dieu de nos miséricordes. Ceci est un témoignage de mon amour pour vous tous, recevez-le chacun en particulier, comme si je vous avais écrit à tous, l'un après l'autre, car c'est le Seigneur qui nous a fait un en son Fils et nous a conduits dans l'unité, tant que nous demeurons en lui, il n'y a point de séparation, et ainsi ne pouvons nous être oubliés les uns des autres. Par ceci vous pouvez comprendre que je vais très bien en tout, et que je continue le service auquel je suis appelé. Hier seulement j'ai eu une réunion à Boston, mais très peu de gens sont venus, ils sont encore sous la crainte de ceux qui sont comme cette génération à laquelle le Christ a dit qu'ils n'entreraient pas eux-mêmes et ne permettraient pas aux autres d'entrer. Toutefois, nous avons eu une réunion très confortable et paisible, et la vérité est au-dessus d'eux, et les amènera sous sa puissance, et confondra leurs inventions. De la part de votre ami et frère, John Bunyan de Piscataqua, je revins par le même chemin, et j'eus un service béni. Puis je revins à Rhode Island, où je passai quelque temps, et ensuite je montai à Providence et rendis visite aux amis là-bas, puis je revins de nouveau. Quand je fus quitte de ces régions, je repris la mer pour Long Island et débarquai à Waste Bay et tins quelques réunions, puis je descendis à Flushing, puis à Gravesend et tins quelques réunions. Ensuite je passai à East Jersey pour visiter les amis là-bas et tins quelques réunions, puis je revins encore à Gravesend et de là je retournai à Waste Bay et j'assistai à leur réunion semestrielle qui commença vers le 8e jour du 8e mois et nous y eûmes un temps béni. Mais lors de notre réunion d'affaires, nous eûmes à nous exercer avec plusieurs, qui se levèrent dans un mauvais esprit contre le bienheureux ordre de la vérité, dans lequel, par la puissance de Dieu, les amis avaient été rassemblés et s'y établissaient doucement. Principalement, leur envie et leur amertume étaient contre George Fox et ses écrits de Saint Conseil, qu'il avait dans l'amour de Dieu envoyé parmi les amis, et dans cet esprit et cet état d'esprit indiscipliné et relâché où ils étaient entrés, certains d'entre eux, remplis de préjugés, avaient écrit un livre, qu'ils apportèrent en manuscrit à la réunion et insistèrent pour qu'on le lise. Mais je leur dis que nous avions là les écrits, et qu'ils pouvaient exposer leurs objections, puisqu'ils étaient présents, et nous y répondrions. Mais cela ne leur suffisait pas, c'est le livre qu'ils voulaient lire, et nous demeurâmes dans le calme jusqu'à ce qu'ils eussent fini. Quand ils eurent fini, je le pris, et de mémoire j'en parcourus les points principaux, et disculpai George Fox et les amis quant à notre pieuse sollicitude et à nos intentions, et j'ouvris le service et l'utilité de telles choses auxquelles ils faisaient objection, et je montrai aux amis l'avantage qui s'y trouvait, tant pour la vérité que pour eux. Et de plus, je réprimandai leurs calomnies et leurs mensonges, par lesquels ils avaient blessé l'esprit de plusieurs jeunes amis nouvellement convaincus, et je leur montrai ainsi que c'était le même esprit qui, jadis, conduisit ceux qui s'opposèrent aux apôtres et s'efforcèrent de les rabaisser et d'engendrer, dans l'esprit des croyants, du mépris contre eux alors qu'ils veillaient sur eux pour leur bien, et qui s'efforcèrent ainsi de les mener à une liberté charnelle afin d'éviter la croix. Quand je m'en fus acquitté et eus informé les amis de la vérité des choses, que l'on avait alors objectées contre nous, les amis en général furent satisfaits et virent les erreurs qu'ils avaient laissées entrer dans leur esprit par les insinuations de ces trois hommes qui avait été principalement impliqué dans la rédaction du livre et dans l'opposition. La puissance du Seigneur se manifesta dans la réunion, et les cœurs des amis furent brisés, et il y eut parmi nous de grands attendrissements dans cette puissance, et dans le même mouvement, nous bénîmes le Seigneur, le louâmes, le priâmes, et eux s'inclinèrent et s'en allèrent. Ainsi les amis furent consolés, et la semence et la vie régnèrent sur tout. Gloire, honneur et louange éternelle lui soient rendues pour toutes ses miséricordes et ses préservations, car il en est digne à jamais. Quand toutes nos réunions furent terminées, et que les amis furent consolés dans la puissance et la semence céleste, et que les mauvais esprits et leurs œuvres mauvaises furent confondus et soumis devant l'esprit des cœurs simples, qui risquaient d'être blessés et trahis par eux, et qu'une fraîcheur et un apaisement se levèrent parmi les amis, je fus libre. Alors je pris mon voyage, accompagné de quelques amis, et j'allai à Flushing, puis à Gravesend, et après y avoir visité les amis, j'allai à New York, et j'y tins une réunion, puis je repris la mer pour le Maryland, appareillant le 23 au jour du 8e mois 1671. Nous essuyâmes une rude tempête d'un vent d'ouest-nord-ouest, qui souffla si fort que nous ne pûmes porter de voile pendant quelques jours, mais enfin nous atteignîmes la Virginie, puis nous remontâmes la baie et arrivâmes à la rivière Patux dans le Maryland, le 5e jour du 9e mois, et là je débarquai avec mon compagnon Daniel Good, venu avec moi de Rhode Island, et qui voyagea avec moi cet hiver-là. Nous visitâmes les amis du Maryland, et je descendis en Virginie pour visiter les amis là-bas, et j'y trouvai de la fraîcheur parmi eux, et beaucoup furent restaurés, et avaient retrouvé un certain degré de leur ancien zèle et de leur tendresse, et je trouvai une grande ouverture dans le pays, et tins plusieurs réunions bénies. Je les conseillai d'avoir une réunion d'hommes, et ainsi de se réunir pour régler les choses dans un bon ordre parmi eux, afin qu'ils puissent être des instruments pour rassembler ceux qui étaient encore dispersés, et ranimer ceux qui étaient froids et négliges, et ainsi maintenir les choses en bon ordre, dans la douceur et le bien parmi eux. Ainsi m'étant acquitté dans l'amour de Dieu, je l'ai confié au Seigneur et à la parole de sa grâce, et repris le bateau pour le Maryland, où j'arrivai enfin sain et sauf, mais nous rencontrâmes de forts vents et un temps mauvais, avec quelques dangers, et je passai encore quelque temps dans le Maryland jusqu'au printemps. Au 2e mois 1672, je fixai une réunion à West River, dans le Maryland, pour tous les amis de la province, afin de les voir rassemblés avant mon départ, car j'étais résolu à partir dès que je le pourrais après cette réunion. Lorsque le temps fixé fut venu, et que les amis de toutes parts commencèrent à arriver, George Fox, avec plusieurs frères, vint de la Jamaïque, débarqua à Patux, et de là vint directement à la réunion. Des amis étaient présents de toutes les régions de la province, et nous eûmes une très grande réunion, qui dura plusieurs jours, ainsi qu'une réunion d'hommes et de femmes pour régler les choses, afin que des réunions d'hommes et de femmes puissent être établies dans la province, selon le bienheureux ordre de l'Évangile de Christ Jésus, dans lequel les amis, par sa puissance, avaient été rassemblés en la plupart des lieux. George Fox en exposa merveilleusement le service aux amis, et eux reçurent avec joie de cœur les conseils sur des choses nécessaires, telles qu'on les leur ouvrit alors, et tous furent consolés et édifiés. Quand tout fut terminé, et que nous fûmes libres, et que tout était doux et agréable parmi les amis, nous partîmes et descendîmes aux falaises, certains par eau et d'autres par terre, et là nous eûmes une grande réunion tant des amis que d'autres gens. Et quand cela fut fini, nous nous séparâmes, certains descendirent en Virginie, et d'autres restèrent dans le Maryland. George Fox, Robert Withers, George Pattison et moi, avec plusieurs amis de la province, prîmes un bateau et passâmes sur la rive orientale, et là nous eûmes une réunion le premier jour, et le 2e jour nous commençâmes notre voyage à travers les bois pour aller par voie de terre jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Nous prîmes des chevaux chez John Pitt, à la source de Trudhaven Creek, et traversâmes les bois au-dessus des sources des rivières Mill et Wye, et nous contournâmes aussi la source de la Chester River, et passâmes 2 nuits dans les bois, à savoir les 2e et 3e jours. Le 4e jour nous arrivâmes à la rivière Sassafra, et fîmes nager nos chevaux, et passâmes nous-mêmes dans des bateaux ou des canoës. Puis nous chevauchâmes jusqu'à la rivière Bomia, et là aussi fîmes nager nos chevaux, et passâmes nous-mêmes en canoë. Nous arrivâmes ensuite à une plantation appelée Augustine, et y restâmes un peu, puis vers 3 heures de l'après-midi, nous reprîmes la route, et quelques-uns d'entre nous arrivèrent au Delaware puis à Newcastle, et y trouvèrent un gîte car nous étions trempés par la pluie, mais Robert Withers et George Pattison restèrent toute la nuit dans les bois, leurs chevaux étant fatigués, le lendemain matin ils nous rejoignirent à Newcastle. Nous y restâmes ce jour-là, et le jour suivant nous passâmes la rivière. Une fois de l'autre côté, nous ne pûmes trouver un Indien pour nous guider, et le Hollandais que nous avions loué ne voulait pas aller sans un Indien, si bien que nous fûmes forcés de rester là ce jour-là. Le lendemain, il chevaucha pour chercher un Indien, mais ne put en trouver aucun qui voulût venir. Mais tard dans la soirée, quelques-uns arrivèrent de l'autre côté à la ville, et nous en engageâmes un, et ainsi nous commençâmes notre voyage tôt le lendemain matin pour traverser ce pays, qui s'appelle maintenant le New Jersey, et nous supposâmes avoir fait ce jour-là près de 40 000. Le soir, nous arrivâmes à quelques wigwams indiens, qui sont leurs maisons. Nous ne vîmes, ce jour-là, ni homme ni femme, ni maison ni habitation, car il n'y avait alors aucun Anglais dans ce pays. Nous couchâmes cette nuit-là dans un wigwam indien, et reposâmes sur le sol, comme les Indiens eux-mêmes. Le lendemain, nous traversâmes plusieurs de leurs villages, et ils furent bons envers nous, et nous aidèrent à franchir les ruisseaux avec leurs canoës. Nous fîmes nager nos chevaux le long des canoës, et poursuivîmes notre route. Vers le soir, nous arrivâmes à une ville indienne, et après avoir mis nos chevaux à l'herbe, nous allâmes à la maison du roi indien, qui nous reçut aimablement et nous témoigna un très civil respect. Mais hélas! Il était si pauvrement pourvu, ayant si peu obtenu ce jour-là, que la plupart d'entre nous ne purent ni manger ni boire dans son wigwam, non qu'il l'eût voulu, mais parce qu'il ne l'avait pas. Nous nous couchâmes donc, comme lui, sur le sol, avec seulement une natte sous nous, et un morceau de bois, ou quelque chose de semblable sous nos têtes. Le lendemain, matin de bonne heure, nous prîmes cheval et traversâmes plusieurs villages indiens, et cette nuit-là nous couchâmes dans les bois. Et le jour suivant, étant le quatrième jour, nous arrivâmes à une plantation anglaise dans une ville appelée Middletown, à East Jersey, où il y avait une plantation d'anglaises et plusieurs amis. Et nous descendîmes avec un ami jusqu'à sa maison près du bord de l'eau, et il nous fit passer dans son bateau, nous et aussi nos chevaux, jusqu'à Long Island. Nous arrivâmes chez les amis à Gravesend ce soir-là, et le lendemain nous reprîmes notre route vers Flushing, sur Long Island. Le septième jour de la semaine, nous prîmes la route pour Oyster Bay, et y arrivâmes le soir, et plusieurs amis de Gravesend et de Flushing étaient avec nous, car le lendemain commençait leur réunion semestrielle, ce qui était la cause de notre voyage hâtif. Nous comprenions que ceux qui, lors de la précédente réunion semestrielle, quand j'y étais, avaient été si turbulents en s'opposant à l'ordre de la vérité et en réfléchissant si mal sur George Fox, serait alors une épreuve pour les amis. C'est pourquoi George Fox s'efforça d'autant plus d'arriver à la réunion, ce que nous fîmes fort opportunément. Cela fut d'un grand service pour la vérité et d'un grand réconfort pour les amis, car eux de ce parti furent fortement abaissés quand nous fûmes arrivés, et certains de leurs chefs commencèrent à flatter George Fox. Ainsi nous eûmes nos réunions très confortablement. Les premiers et deuxièmes jours étaient publics pour le culte, le troisième jour, nos réunions d'hommes et de femmes pour les affaires, au sujet des affaires de l'Église comme auparavant. Le quatrième jour, nous eûmes une réunion avec ces gens mécontents, car George Fox ne voulait pas permettre que le service de nos réunions d'hommes et de femmes fût entravé par une telle affaire. Et ainsi, le quatrième jour, autant d'amis que souhaitaient être présents vinrent, et la puissance du Seigneur passa sur eux, et les amis furent grandement satisfaits. Celui qui était le principal instigateur de ce méfait, à savoir George Denis, venu de Londres, et sa femme n'étant pas bien reconnue là-bas par les amis, commencèrent maintenant à désavouer l'affaire et auraient voulu la rejeter sur d'autres, et volontiers se montrer quitte aux yeux de George Fox. Mais je prouvai par sa propre main qu'il avait été un acteur principal à la précédente réunion semestrielle, et celui qui avait lu le livre dans notre réunion, que nous le voulions ou non. Ainsi les choses étant fixées sur lui, la puissance du Seigneur passa sur son esprit trompeur, et ils furent tous courbés, et la vérité fut exaltée au-dessus de tout, gloire au Seigneur à jamais, amen. Après cela, nous restâmes quelque temps sur l'île, et retournâmes tenir quelques réunions, puis revînmes à Oyster Bay, et ensuite nous mîmes à la voile pour Rhode Island le 29e jour du 3e mois 1672, et j'arrivai le 30e du même mois, et y restai jusqu'à la réunion annuelle, qui commença le 8e jour du 4e mois, qui était le 6e jour de la semaine suivante. À cette assemblée générale, il y avait beaucoup d'amis de la plupart des lieux de la Nouvelle-Angleterre où habitaient des amis, et quantité d'autres gens vinrent à nos réunions publiques. Nous eûmes des réunions pendant 8 jours de suite, chaque jour une réunion, certaines publiques et d'autres réunions d'hommes et de femmes, pour régler les affaires des églises dans l'ordre de la vérité, afin que toute chose soit gardée douce, propre et bien. Quand tout fut terminé, et le service des réunions achevé, je pris mon voyage vers l'Est, pour parcourir les réunions dans les parties orientales de la Nouvelle-Angleterre, et avec moi allèrent John Cartwright et George Patison, et plusieurs autres amis nous accompagnèrent, nous laissâmes George Fox sur l'île, et nous allâmes à Providence et dans le pays de Narragansett. Puis nous prîmes notre route vers Sandwich, où nous eûmes une réunion bénie, et fûmes consolés et richement rafraîchis dans la bienheureuse présence de la sainte et bénie puissance du Seigneur, qui était avec nous et qui ouvrait et élargissait nos cœurs. Après avoir passé quelque temps avec les amis là-bas, nous les quittâmes et poursuivîmes notre chemin par Plymouth et Duxbury, et eûmes une réunion à Marshfield et une autre à Scituate, et le Seigneur était bénigne avec nous. À Scituate, quelques anciens de leur église puritaine congrégationaliste vinrent à notre réunion, où il y avait quantité de personnes dans un verger, et se levèrent pour faire opposition. Aussi cessai-je de parler au peuple et m'engager avec eux dans une dispute. Mais le peuple fut si mécontent de l'interruption qu'il faisait, qu'il manifesta sa désapprobation et voulut qu'il cesse jusqu'à ce que j'eusse fini, sur quoi ils dirent qu'ils s'accorderaient et reviendraient. Ils s'en allèrent, et, leur propre réunion terminée, ils revinrent, et plusieurs amis restèrent avec moi, et une grande foule de personnes vint avec eux. Alors nous entrâmes dans notre maison de réunion, qui auparavant ne pouvait contenir la multitude, et là ils commencèrent à disputer, et après quelque temps, eux s'efforçant toujours de faire paraître les amis dans l'erreur, je leur dis devant le peuple, « Si je dois être disputé comme un hérétique, et votre église estimée comme une vraie église, je suis disposé à en venir à la règle que Christ a laissée, et à être éprouvé par elle, c'est-à-dire par nos fruits, et si vous pouvez prouver que les fruits de votre église sont conformes aux fruits. » Mais ils étaient fort peu disposés à s'unir à moi dans ce discours. Je pressai la preuve de notre pratique par l'écriture, surtout sur un point si important, et je continuai à rappeler les fruits de leur église, qui étaient infligés des amendes et enlevés des biens pour n'être pas venus à leur culte, emprisonnés, fouettés cruellement, coupés des oreilles, marqués au fer dans la main, bannir sous peine de mort, et pendre, car ils avaient pendu quatre de nos amis. Toutes ces cruautés, leur église les avait exécutées contre nous, et uniquement pour cause de religion. Et s'ils pouvaient prouver que ce sont là les fruits d'une vraie église chrétienne, alors, leur dis-je, je les reconnaîtrais, sinon, ils devaient être reniés. Ils auraient volontiers éludé la preuve de ces choses, ou la dispute à leur sujet, mais j'insistais sur la nécessité, afin que nous soyons connus à nos fruits, et que notre pratique soit prouvée par l'Écriture, qu'ils prétendaient être leurs règles, autrement tout n'était que paroles vaines et notions oiseuses, n'ayant rien à voir avec l'Écriture. Alors ils furent confondus et ne surent que dire, mais l'un d'eux se réfugia dans ce décret fait par Artaxerxès, Esdras 7, 26. Mais je montrai combien cela était incompatible avec la dispensation de l'Évangile, le commandement du Christ et la pratique chrétienne, et j'ajoutai que je prouverais par la pratique que les Indiens étaient de meilleurs chrétiens qu'eux. Je citai le roi indien, qui lorsqu'il avait banni Nishola Apshol, un ancien homme grave, contre qui il n'avait rien, sinon qu'on l'appelait Quake loin de sa femme et de sa famille, et hors de leur colonie, lui étant reçu par ses amis à Sandwich dans la colonie de Plymouth, ils excitèrent les dirigeants de la colonie à le bannir de leur juridiction, ce qu'ils firent. Et lorsque le roi indien s'enquit de la raison pour laquelle il voulait envoyer cet homme âgé à 60 000 à travers les bois dans le froid de l'hiver, jusqu'à… De plus, lorsque le roi indien eut compris l'affaire, il pria Nishola de venir avec lui, et il le garderait, et nul ne le molesterait, ou à cette fin, et lui offrit des terres et de la bonté. Ainsi dis-je, voici quelqu'un qui voulait accueillir un étranger, une pratique chrétienne selon Hébre, 13:2, tandis que votre église bannissait des voisins de leur propre demeure, acte de cruauté. Nous eûmes beaucoup de discours, mais sur ces points ils furent confondus. Certains d'entre eux ayant été des acteurs de la persécution contre nos amis, comme les amis me le dirent après leur départ. Ainsi la puissance du Seigneur passa sur eux, ils ne purent soutenir l'épreuve et nous nous séparâmes dans la paix et l'amour de Dieu. Le lendemain nous arrivâmes à Boston, où nous eûmes une réunion, et beaucoup de gens vinrent et plusieurs personnes de marque. Au bout d'un moment, pendant que je parlais, arrivèrent le maréchal et un constable, et beaucoup de gens les suivirent. Le maréchal ordonna au constable de faire son office. Le constable, homme modéré, dit que c'était ce qu'il faisait, il devait veiller à ce que la paix du roi fût gardée. Il resta un moment, m'entendit, puis s'en alla et dit au lieutenant-gouverneur qu'il avait assisté à notre réunion, mais n'y avait entendu rien d'autre que la vérité, et nul blasphème, ou à cet effet. Ainsi les gens restèrent, et j'eus un temps béni pour leur exposer les choses, et disculper la vérité de ces scandales que les prêtres et d'autres avaient jetés sur elle. Et les gens s'en allèrent grandement satisfaits et parlèrent bien du témoignage qu'ils avaient entendu. Quand le prêtre Satch entendit cela, car plusieurs de ses enfants étaient là, il paraît qu'il en fut mécontent, et l'esprit coléreux et persécuteur se leva en lui, et le premier jour suivant il excita, dans sa prédication au peuple, deux magistrats, et ils envoyèrent prendre des amis à leur réunion et en firent mettre plusieurs en prison. Nous avions fixé une réunion pour John Stubb et James Lancaster le troisième jour de la semaine suivante, eux qui venaient après nous à travers le pays, et lorsqu'ils arrivèrent, ils furent mis en prison et bannis hors de la colonie. Ainsi leurs anciens fruits, tels de vieux arbres corrompus, furent produits de nouveau. Le lendemain, nous prîmes la route de Salem, où nous eûmes une réunion et un temps béni. Mais nous rencontrâmes certains qui étaient tombés dans cette folle notion de John Perrow, à savoir garder leur chapeau sur la tête quand les amis priaient. Après la fin de la réunion, où beaucoup de gens étaient dans une grange, nous eûmes une réunion avec plusieurs des dirigeants des amis et ceux qui avaient suivi cet esprit, et nous eûmes avec eux un grand entretien, dans lequel nous travaillâmes à les amener à comprendre cette notion où ils s'étaient engagés, et ainsi à ouvrir et établir l'esprit des amis dans l'ancienne vérité et la bienheureuse puissance, en lesquelles ils avaient cru et qu'ils avaient reçu du ciel. Puis nous fixâmes une réunion pour la semaine suivante, lors de notre retour. Nous prîmes la route vers Piscataqua et eûmes une réunion à Hampton en chemin. Plusieurs personnes y vinrent, ainsi que quelques anciens de leur église, et ils furent grandement satisfaits. Et ils s'en allèrent et rendirent un bon témoignage de la vérité, au point que Sibon Cotton, le prêtre, en fut grandement offensé. Le premier jour suivant, il réunit les principaux de ces gens et voulut faire adopter un acte d'église stipulant qu'aucun membre, ni les enfants des membres, ne devraient aller à une réunion de Quakers, et cela devait être confirmé par un vote à main levée, mais ceux qui étaient à la réunion n'y consentirent pas, et l'un d'eux déclara ce dont il se souvenait des points qu'il avait entendus à la réunion, et soutint que c'était la vérité. Le prêtre entra dans une rage et s'efforça d'exciter la persécution. Après la réunion, nous allâmes jusqu'à Piscataqua avec des amis venus de là pour nous rencontrer, et nous y restâmes jusqu'au premier jour, et eûmes une réunion bénie, et nous eûmes aussi une réunion avec les dirigeants des amis, hommes et femmes, au sujet de l'établissement des réunions d'hommes et de femmes. Les amis étaient très ouverts, et toutes choses furent réglées dans une douce unité, après que nous leur eûmes exposé les choses concernant le bienheureux ordre de l'Évangile. Les confiant donc au Seigneur et à la parole de sa grâce, nous revînmes et eûmes une autre réunion à Hampton, où il y avait plusieurs jeunes gens qui, après la réunion, me donnèrent un écrit dans lequel ils signifiaient leur désir d'être éclairés sur quelque chose qui était pour eux un scrupule. Je leur répondis et leur donnai grande satisfaction. Voyant mon ouverture et ma bonne volonté de répondre, ils m'interrogèrent sur beaucoup de choses dont ils souhaitaient être instruits, et à tout je répondis et les satisfis, et ainsi nous nous séparâmes. Puis moi et les amis avec moi prîmes la route vers Salem, et y arrivâmes pour le temps fixé, et nous eûmes la réunion que nous avions fixée, avec la plupart des principaux amis. Elle concernait l'établissement de réunions pour veiller aux affaires de l'Église. Dans cette réunion, il m'incomba largement d'exposer le service de nos réunions d'hommes et de femmes, ainsi que le devoir et le soin des fidèles en cela, et quand j'eus fini, ils reconnurent que ce service était très bon et juste. Nous désirâmes qu'ils en viennent à la pratique, mais lorsque nous les pressâmes un peu, ils répondirent peu et se tinrent en retrait, certains d'entre eux comme Diotrephe autrefois, qui aimait la prééminence et s'opposa ainsi à l'apôtre se tinrent à l'écart dans leur esprit, étant de cet esprit dont j'ai parlé plus haut en Virginie, prétendant être contre les formes. Pendant un temps, nous restâmes assis dans l'attente du Seigneur, et à voir à quoi ils en viendraient, et Georges Patizon travailla à les amener à sentir le service, afin qu'ils en viennent à la pratique. Et eux ne voulant rien dire, mon esprit étant très abattu, la parole du Seigneur vint à moi, et la crainte de sa puissance tomba sur moi. Après quelque temps, j'ouvris la bouche avec une lamentation, et dis, j'étais désolé ou peiné d'avoir à dire ce que je devais leur déclarer, à savoir que tant qu'ils se tiendraient dans l'esprit où ils étaient, ils ne pourraient agir en unité avec le corps et dans l'honneur de la tête, et que notre exhortation était donc qu'ils condamnent cet esprit par lequel ils avaient été égarés, et qu'ils attendent l'esprit universel de vie, ou à cet effet, et ainsi nous les quittâmes, et ils furent grandement touchés. Le lendemain, nous eûmes parmi eux une réunion publique, et après la réunion nous partîmes vers Boston. Alors, leur conscience étant troublée, nous parlâmes avec plusieurs de leurs dirigeants, qui me pressèrent de revenir sur mes paroles et dire que c'était très dur. Mais je leur dis que je ne le pouvais pas, la puissance l'avait scellé, et cela devait demeurer, à savoir qu'ils doivent venir à la repentance et condamner cet esprit qui les avait trompés, ou à cet effet. Ainsi nous laissâmes cela sur eux selon la parole du Seigneur. Certains d'entre eux l'ont depuis reconnu, ont condamné cet esprit et ont rendu un témoignage écrit contre lui. Béni soit le Seigneur, qui fait miséricorde et restaure hors des pièges de Satan. Chapitre V. L'auteur voyage avec John Stubb, à Rhode Island, assiste à une longue dispute publique, et de nouveau à Hartford. Ses autres services, en 1073, débarquent en Irlande, visitent la plupart des réunions de ce pays. Retourne en Angleterre, visite la réunion trimestrielle de Westmoreland, affaire de John Wilkinson et John Story, 1675, voyage dans d'autres régions, troubles concernant John Wilkinson et John Story. Étant quitte de toutes ces régions du pays, nous partîmes directement pour Rhode Island, et là nous rencontrâmes George Fox, qui se préparait à aller vers l'ouest en direction de Long Island. Ainsi il partit, et Robert Withers, James Lancaster et George Patizon avec lui. De Long Island, ils passèrent à East Jersey, puis reprirent la route par terre jusqu'au Maryland, et John Stubbs et moi restâmes à Rhode Island. Nous laissâmes John Cantwright à Piscataqua, il alla plus aller, et après quelque temps il vint retrouver John Stubbs et moi à Rhode Island. John Stubbs et moi montâmes à Providence et y eûmes une réunion, et au retour, nous eûmes une réunion à Warwick, où nul n'était encore allé, et plusieurs furent convaincus et reconnurent la vérité. Là, nous eûmes à lutter contre un certain Gorton et sa compagnie, que d'autres gens appelaient Gortoniens, mais eux s'appelaient généralistes, ils étaient d'avis que tout serait sauvé. Mais en réalité, c'était des rentés, car dans nos entretiens, ils soutenaient et disaient qu'aucune action créée ne pouvait être péchée, et ils ne voulaient pas que l'ivrognerie ni rien de semblable fût péché, sinon ce qui était spirituel, l'acte extérieur n'était que créaturel. Ainsi, dans leurs esprits sales et impurs, à l'instar des anciens rentés, ils se moquaient de la répréhension de l'Esprit de Dieu. De là nous redescendîmes à Rhode Island, et là nous passâmes quelque temps, et eûmes une longue dispute avec un certain Roger Williams qui nous envoya de Providence un défi, avec 14 propositions, comme il les appelait, mais c'étaient des accusations, et ils s'engagèrent à les soutenir contre tous venant, les 7 premières devaient être disputées à Rhode Island, et les 7 dernières à Providence. Nous passâmes 3 jours à disputer avec lui à Rhode Island, mais il ne put apporter aucune preuve de ses accusations à la satisfaction des auditeurs, car il y avait chaque jour une grande assemblée. Il serait fastidieux ici d'insérer le discours, même si j'en étais capable, mais je ne m'en souviens pas. Il existe un livre manuscrit de ce qui fut pris en sténographie du discours à ce moment-là, et il y a aussi un livre imprimé, intitulé « New England Firebrand Quenched », qui est une réponse à un livre du dit Roger Williams, et qui rapporte une partie de la dispute, auquel je renvoie le lecteur. William Edmondson vint de Virginie et était aussi avec nous à cette même dispute. William Edmondson et John Stubb montèrent à Providence et passèrent un jour avec Williams là-bas, au sujet des 7 dernières accusations, et se justifièrent ainsi devant le peuple, puis s'en allèrent quand ils en eurent fini avec lui. Après avoir passé quelque temps ensemble sur l'île, John Stubb et moi passâmes, avec plusieurs amis qui nous accompagnaient, à Narragansett, et là nous eûmes une réunion le 24e jour du 6e mois, chez un certain Richard Smith, et le lendemain nous prîmes la route vers Hartford. Nous arrivâmes d'abord à New London, puis de là à Norwich, puis à Hartford, et y restâmes un jour, et plusieurs des professants vinrent à nous pour disputer avec nous. Le lendemain, nous chevauchâmes près de 30 milles jusqu'à une ville appelée Westfield, qui se trouvait dans la colonie du Massachusetts. Un homme et sa femme nous reçurent, et nous fixâmes d'une réunion. Mais quand ils la prirent, certains de leurs officiers vinrent à nous et nous commandèrent de ne tenir aucune réunion, et ils effrayèrent tellement les gens que nul n'osa venir. Nous eûmes un petit échange avec leurs officiers ou anciens qui vinrent à nous, mais ils ne voulurent pas rester et crièrent contre notre religion. Nous leur demandâmes s'ils connaissaient nos principes, qu'ils condamnaient ainsi, certains répondirent disant que non, ils ne les connaissaient pas et ne désiraient pas les connaître. Nous leur demandâmes alors comment ils pouvaient les juger, et en même temps nous leur dîmes qu'ils étaient tels que les Écritures en parlent, qui parlent en mal de ce qu'ils ne connaissent pas, et ils furent confondus et s'en allèrent, mais ils effrayèrent tellement les gens que personne n'osa s'approcher de nous. Ainsi nous revînmes à Hartford le 6e jour de la semaine, et le 7e jour plusieurs vinrent à nous et s'entretinrent avec nous, et nous désirâmes pouvoir parler au prêtre, et il nous avait promis que nous le pourrions. Mais quand nous le demandâmes, lui ou eux pour lui s'excusa, disant qu'il ne pouvait ce jour-là quitter son étude. Le lendemain, étant le premier jour de la semaine, nous allâmes à leur réunion, et le matin nous restâmes dehors jusqu'à ce qu'ils eussent fini. Et quand ils eurent fini et sortirent, nous parlâmes au peuple, mais ils s'éloignèrent comme s'ils avaient eu peur de nous, et nul ne voulut rester. Nous retournâmes donc à l'auberge et y restâmes jusqu'à l'après-midi, puis nous entrâmes dans leur maison de réunion et restâmes jusqu'à ce que le prêtre eût terminé. Alors je me levai et appelai le peuple, demandant un peu de patience pour entendre, car j'avais une parole d'exhortation à leur dire, et je commençai à parler. Mais aussitôt le bedeau vint m'interrompre, et voyant qu'il ne pouvait m'arrêter, il chassa les gens. Quand je vis que la plupart des gens étaient partis, je descendis pensant aller après eux, mais il arriva à la porte et la ferma pour me retenir dedans. Alors je passai par une allée pour atteindre une seconde porte, mais il franchit les bancs et ferma celle-là aussi. Puis je me dirigeai vers une troisième porte, il y arriva également avant moi et la ferma, faisant ainsi de leur maison de réunion une prison, et nous y retint, avec très peu de personnes qui n'avaient pas fui, jusqu'à ce que les gens fussent partis, puis il nous laissa sortir, ainsi nous revînmes à notre auberge. Après quelque temps, plusieurs de leurs anciens vinrent disputer avec nous, exprès pour tenir les jeunes gens à l'écart, comme certains le confessèrent, et lorsque nous en vînmes à nous entretenir, ils semblèrent nous accuser de violer le sabbat, en étant venus à leur réunion ce jour-là. Nous prîmes la Bible et dîmes, « Allons prouver d'abord un jour de sabbat sous la dispensation de l'Évangile, puis prouver si vous le pouvez que notre pratique en ce jour en est une violation, et justifiez Paul, qui disputait chaque jour de sabbat dans la synagogue, puis prouver par l'Écriture votre pratique en ce jour, et montrer où des chrétiens ont jamais chassé les gens pour les empêcher d'entendre la vérité, car vous avez reconnu que nous ne disions rien d'autre que la vérité, et fait de leur maison de réunion une prison. Ainsi vous vous placez plus bas que les Juifs incrédules, qui laissèrent liberté à Paul et à Sila. Et ils furent confondus, ne surent comment justifier leurs actes et s'en allèrent. Après leur départ, beaucoup de jeunes gens vinrent dans notre chambre, et nous leur exposâmes nombre de choses concernant la voie de la vérité, et éclaircîmes les choses par les Écritures, et ils furent grandement satisfaits. Quand les vieux professants secs virent que les jeunes gens étaient touchés, ils envoyèrent un constable pour commander à tous de partir, mais ils répondirent en disant qu'ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, chefs de maison, et qu'ils n'avaient donc rien à faire avec eux, ainsi ils ne partirent pas. Nous continuâmes donc à leur ouvrir les Écritures, et ils étaient touchés. L'aubergiste, qui était l'un de leurs anciens, vint et emporta la bougie, afin que nous ne puissions voir pour lire dans les Écritures, et il nous laissa dans l'obscurité, alors les gens s'en allèrent mécontents. Le lendemain matin, John Stubbs et moi prîmes notre route vers l'ouest, et nos amis qui nous avaient accompagnés rentrèrent chez eux à Rhode Island. Nous allâmes de Hartford à New Haven, Milford, Stratford, Fairfield, Norwich, Stamford, puis à Greenwich, où nous rencontrâmes des amis, et là nous fixâmes une réunion. Le prêtre de cette ville avait prêché en chaire contre les amis, et s'était souvent vanté de disputer avec les Quakers si jamais il en venait. Ainsi, quand la réunion fut fixée, les gens vinrent avec grande attente de ce que ferait un prêtre. Mais le matin, il s'en alla à cheval à Stamford chez un magistrat, et envoya un constable avec un mandat pour nous appréhender. Celui-ci vint au commencement de notre réunion, nous prit et nous emmena au magistrat à Stamford. Le peuple mécontent, beaucoup d'entre nous suivirent jusqu'à Stamford, et nos amis aussi pour voir ce qu'ils feraient. Quand nous y arrivâmes, beaucoup de gens étaient rassemblés autour de la maison, car il n'y avait que 2 miles entre les villes, mais après quelque temps on nous fit entrer dans une pièce intérieure, où le magistrat était couché sur son lit, n'étant pas très bien. Quand nous entrâmes, il n'y avait avec lui que 2 prêtres, celui de Greenwich et celui de Stamford, et nul ne devait être admis à entrer, sinon le constable et un homme de Stamford qui était marchand, disait-on, il entrait et sortait à sa guise. Le magistrat nous posa beaucoup de questions, et nous lui répondîmes, et il s'entretint longtemps avec nous sur bien des choses, et nous lui répondîmes, car il était fort modéré. Après un long moment, l'un des prêtres posa une question, et je dis que si nous devions traiter de choses divines, nous désirions que ce soit plus public, car le peuple était dehors, désireux d'entendre. Alors le magistrat dit au prêtre, « Maître Jaune et Maître Bishop, je vous prie d'aller dans la maison de réunion publique avec ces hommes, et d'y vous entretenir avec eux devant le peuple. » Car, dit-il, ce sont des hommes sobres et raisonnables. Nous acceptâmes volontiers l'offre, nous levâmes et sortîmes, et les prêtres nous suivirent mécontents. Mais une fois dehors, parmi le peuple, nous appelâmes les prêtres à venir avec nous, comme il leur avait été demandé, et ainsi nous montâmes, eux et le peuple aussi. Quand nous fûmes installés dans la maison de réunion, avec beaucoup de gens, les prêtres voulurent que nous commencions, ainsi nous commençâmes d'abord avec eux au sujet de leur gage, puis nous passâmes à notre appel, qu'ils nous reprochaient, puis à la lumière qu'il n'y ait, aussi à l'élection et à la réprobation, et à la libre grâce. Ils affirmèrent que la grâce de Dieu n'était pas apparue à tous les hommes, et que Christ n'était pas mort pour tous les hommes. Nous y passâmes plusieurs heures, mais l'entretien est rédigé dans un livre manuscrit, et je l'éviterai donc ici car il est long. Le lendemain, nous eûmes une réunion à Greenwich, mais le prêtre vint, et nous eûmes un grand entretien, qui est dans le dit livre. Le premier jour suivant, nous eûmes une réunion à environ 6 000 de là. Puis, étant quittes de ces régions, nous prîmes un bateau et passâmes à Long Island, à Waste Bay, et y rencontrâmes John Cartwright, et ainsi nous visitâmes les amis de l'île. John Cartwright et moi passâmes à East Jersey et y visitâmes les amis, et d'une plusieurs réunions bénies, nous revîmes ensuite à Long Island, et d'une plusieurs réunions. De ces régions, John Cartwright et moi vîmes à New York, afin d'obtenir un passage pour le Maryland. Nous appareillâmes de New York le premier jour du 9e mois 1672, et de Sandy Hook vers la mer le 3e jour du même mois, et rencontrâmes du gros temps, mais le 6e jour du même mois nous entrâmes au Cap de Virginie, et le 9e du même mois nous jetâmes l'ancre dans la rivière Patux dans la province du Maryland, et ainsi nous remontâmes en un jour ou deux jusqu'à chez Jay. Nous allâmes ensuite, parmi les amis de cette province, selon que le Seigneur ouvrait la voie. George Fox et les amis qui étaient avec lui, venus ensemble par voie de terre, étaient descendus en Virginie, et lui aussi voyagea par terre jusqu'en Caroline du Nord, où il trouva des amis, puis revint par terre en Virginie, et remonta de nouveau la baie jusqu'au Maryland. Et pendant qu'ils étaient en bas en Virginie et en Caroline, nous voyageâmes parmi les amis du Maryland et eûmes un service béni. Le premier jour du 11e mois, nous eûmes une réunion chez John Baldwin, à South River. Il y avait beaucoup d'amis, et d'autres personnes, qui s'étaient rassemblées à l'occasion d'une dispute à laquelle un certain Henry Pierrepoint nous avait provoqué. C'était une sorte d'homme des Fifth Monarchy Men. La première chose approuvée, qu'il avait posée d'emblée, était que les Écritures étaient l'unique règle par laquelle éprouver toute chose en matière de foi et de doctrine. À ce sujet, nous eûmes un grand entretien, et nous prouvâmes que les patriarches savaient la foi et une règle de foi avant qu'aucune des Écritures que nous avons eues été écrite, et nous montrâmes quelle était leur règle. Nous passâmes plusieurs heures à disputer des trois autres points qu'il avait affirmés, mais il existe un livre manuscrit qui répond à tout cela. Je m'abstiendrai donc d'en faire ici davantage mention. On passa quelque temps à visiter les amis de réunion en réunion, où beaucoup de personnes vinrent en plusieurs endroits, et la puissance du Seigneur nous ouvrit, et nous fûmes consolés, et les consciences des gens furent touchées. George Fox et les autres amis retournèrent ensuite, et John Cartwright prit un navire pour la Barbade. George Fox et moi restâmes quelque temps ensemble, et nous montâmes jusqu'à une ville indienne à la maison de l'empereur, qui avait ordonné aux Indiens, hommes et femmes, d'être chez lui, à savoir les anciens et graves, et les jeunes gens étaient dans un autre wigwam. George Fox leur parla par l'intermédiaire d'un interprète pendant l'espace de 4 ou 5 heures, je suppose que c'était près de 5 heures, et ils étaient très calmes et silencieux, très attentifs, et ravis, comme nous le perçûmes d'entendre. Quand le temps fut écoulé, et que nous fûmes libres, ils nous témoignèrent de la bonté, et allaient suspendre un chaudron au feu pour y faire bouillir du poisson pour nous, comme ils nous le dirent, mais nous ne pouvions rester, ayant un long chemin à faire par eau, et il se faisait tard, ainsi nous nous rendîmes au bord de l'eau, et quelques-uns nous accompagnèrent jusqu'à ce que nous prenions le bateau. Nous redescendîmes, de nouveau la rivière vers les amis, et passâmes encore quelque temps à voyager, et à travailler dans cette province. James Lancaster, George Pattison et moi entreprîmes un voyage pour visiter quelques personnes qui avaient été convaincues en amont du fleuve Potomac. Nous traversâmes en bac la rivière Patux, puis nous marchâmes à pied à travers les bois, jusqu'à ce que nous arrivions chez elles. Nous restâmes quelques jours, et eûmes une réunion ou deux, puis nous revînmes à Patux et au Cliff, où nous laissâmes James, étant très fatigué. Le lendemain, George et moi voyageâmes jusqu'à West River, et nous fûmes à leur réunion. La semaine suivante, nous prîmes un bateau et traversâmes la baie vers la rive orientale, et montâmes la mille rivée jusqu'aux amis. De là, nous allâmes rencontrer George Fox pour lui parler, ayant l'intention de prendre la mer et d'aller en Angleterre avec un certain John Orr, un ami et maître d'un ketch, qui appartenait à quelques amis de Londres. Après avoir été quelque temps avec George Fox, nous retournâmes à mille rivée vers notre bateau, et au bout d'un temps nous traversâmes la baie en direction de West River, et après quelques épreuves dues à des vents contraires, nous parvînmes enfin à passer. Et après y avoir passé un peu de temps avec les amis, nous partîmes et descendîmes par les cliffs où nous rencontrâmes George Fox qui avait traversé la baie. Nous y restâmes peu et continuâmes vers Patuxt où nous prîmes un navire et mîmes à la voile le 25e jour du second mois 1673 et nous sortîmes à la mer au cap de Virginie le 26e jour du même mois. Après n'avoir navigué que quelques jours, tôt un matin, nous remarquâmes derrière nous une flotte de navires, environ 24, alors nous nous arrêtâmes un peu, les supposant être une flotte anglaise, qui avait quitté les caps depuis James Rioté 2 ou 3 jours avant nous, et lorsque quelques-uns nous eurent rejoints, ils nous dirent que c'était la même flotte. Ainsi nous demeurâmes avec eux, et naviguâmes en compagnie, jusqu'à ce que nous arrivions vers les bancs de Terre-Neuve, puis nous rencontrâmes du mauvais temps, qui nous sépara les uns des autres, de sorte que nous ne nous retrouvâmes plus tous ensemble. Nous fûmes six à nous regrouper dans notre compagnie, et nous restâmes ensemble jusqu'à notre entrée dans la baie de Galway, en Irlande, où nous arrivâmes le 24e jour du troisième mois 1673. Chapitre vie abrégée de quelques lettres de John Bunyan, poursuivant le récit de ses voyages, de 1673 à 1690, son mariage en 1683, son emprisonnement à Dublin, mort de sa femme en 1688. De Galway, je voyageais à Limerick, puis à Charleville, Malo, et à Cork et Bandon, et presque jusqu'à Baltimore, visitant les amis et tenant des réunions. Je revins ensuite à Cork et entrepris mon voyage vers Youghal, puis vers Tallaght et Killoughmin et Waterford, puis dans le comté de Wexford, tenant des réunions en tous ces lieux, et la bonne présence du Seigneur était avec nous pour notre consolation, gloire, honneur et louange à lui pour toujours. Ensuite, je remontai à travers le comté de Carlow et le Queen's County, puis dans le comté de Westmeath, tenant des réunions tout le long et visitant les amis. Et là, George Pattison me quitta et prit la route de Dublin, puis de là pour Londres, mais moi je pris le chemin de Cavan. Après avoir vu les amis et tenu une réunion ou deux, je pris la route du nord, vers le comté d'Armagh et le comté d'Antrim, et ces régions, et je visitai les amis, et eus de nombreuses réunions précieuses, et le Seigneur était avec nous, et sa gracieuse présence était notre consolation quotidienne, à lui la gloire pour toujours. Après avoir passé quelque temps dans le nord de l'Irlande au service de la vérité, je pris la route de Dublin. et après quelques réunions là-bas, je me rendis dans le comté de Wicklow, puis à travers la province de Munster une seconde fois, et je pris aussi des amis en Leinster et dans le Nord, de sorte que je parcourus la plupart des réunions une seconde fois dans cette nation. Puis, étant libre de la nation, je pris un navire à Belfast le 25e jour du 10e mois 1673, et le 26e nous appareillâmes hors du Lough, et arrivâmes à Whitehaven, dans le Cumberland, en Angleterre, le 27e du même mois, et restâmes environ 3 mois, pour la plupart, dans le Cumberland. Ensuite, je pris la route depuis le Cumberland vers Newcastle, visitant les amis et leurs réunions en chemin. De Newcastle, je continuai vers le Bishopric, et à travers leurs réunions, puis dans le Yorkshire par Cleveland jusqu'à Whitby, et Scarborough, Malton et York, et j'eus de nombreuses réunions précieuses. Je montai à Masham, et de là Robert Lodge et moi, avec James Hall, prîmes la route de Londres pour la réunion annuelle de l'année 1674, et nous restâmes quelque temps dans cette ville, travaillant dans la parole et le témoignage que Dieu m'avait confié. Ensuite je pris la route de la campagne, et descendis dans le Buckinghamshire à travers leurs réunions, puis dans l'Oxfordshire, le Worcestershire, le Gloucestershire et à Bristol, puis de nouveau en arrière et à Shrewsbury, et jusqu'à Wrexham au Pays de Galles visitant les églises du Christ. Et la bonne présence du Seigneur dans sa puissance céleste nous accompagnant, nous étions souvent rafraîchis et doucement consolés ensemble, pour notre joie et sa louange, lui qui est notre Dieu pour toujours. De Wrexham, dans le nord du Pays de Galles, je pris la route avec John Ap John, qui m'accompagna vers le sud du Pays de Galles. Nous visitâmes les amis et eûmes de nombreuses réunions en chemin, dans le Montgomeryshire, le Merionethshire et le Cardiganshire, et nous passâmes par la mer de l'Ouest jusqu'au Pembrokeshire. Là nous visitâmes le peuple du Seigneur et passâmes quelque temps parmi eux. Puis nous prîmes la route à travers le Carmarthenshire jusqu'à Swansea, et après une réunion ou deux, nous continuâmes vers Cardiff, visitant les amis dans le Glamorganshire, puis dans le Monmouthshire. Et après avoir visité les amis dans ce comté, nous nous séparâmes, il retourna chez lui, et moi je traversai l'eau vers le Gloucestershire, puis vers Bristol. Je continuai à voyager dans plusieurs comtés, visitant les églises, puis jusqu'à Londres, où je passai quelque temps, et ensuite je descendis dans l'Essex et visitai les amis de ce comté, puis je revins à Londres pour la réunion annuelle de l'année 1675. De Londres je pris la route d'Hartford, puis vers le nord avec John Grave et James Hall, jusqu'à York, où nous nous séparâmes. Je partis de York pour Malton, puis pour Scarborough et Whitby, prenant des amis à Cleveland, puis vers Stockton dans le Bishopric, visitant les amis et ayant de nombreuses réunions précieuses. Je passai ensuite par plusieurs réunions dans ce comté, et étant libre, je pris la route du Cumberland, et là, avec plusieurs frères, on me pria de venir dans le Westmoreland, à une réunion fixée par les amis lors de leur réunion trimestrielle, qui devait avoir lieu à Powbank. J'y allai donc pour le jour fixé, avec John Grave, John Tiffin, Hugh Tickell et Thomas Lasus, où nous rencontrâmes plusieurs frères, venu du Yorkshire à la demande de la dite réunion trimestrielle. Cette occasion, beaucoup d'amis du Westmoreland se rassemblèrent, et une fois assis ensemble dans la réunion, ils exposèrent devant nous plusieurs désordres en beaucoup de choses, contraires à la vérité, par lesquelles ils avaient été affligés et durement éprouvés depuis longtemps dans leurs réunions mensuelles et trimestrielles, de sorte que les esprits d'une compagnie relâchée furent laissés en liberté, et si fort soutenus et encouragés par John Story et John Wilkinson, que le bienheureux ordre de la vérité, suscité parmi nous par la puissance. Ainsi, ayant entendu ce que les amis avaient à dire en cette affaire, et observant ce qui était allégué et prouvé, nous priâmes les amis de nous donner une autre réunion, et que l'on envoie chercher John Story et John Wilkinson, en leur demandant de nous rencontrer, afin que nous puissions les entendre face à face. Bien qu'ils eussent été sollicités par la réunion trimestrielle, et par plusieurs autres, de venir à cette réunion ainsi fixée, ils avaient refusé, et de plus, ils nous envoyèrent une lettre déclinant de venir et désavouant notre réunion. Néanmoins, nous voulions avoir une autre réunion, à quoi les amis du Westmoreland consentirent volontiers, et elle fut fixée à Millthorpe le lendemain. Et nous, c'est-à-dire 6 ou plus des amis du Cumberland et du Yorkshire, nous nous rendîmes nous-mêmes vers eux comme messagers, et les supplîmes de venir avec nous à la réunion, afin que nous puissions les entendre, eux et les amis du Westmoreland qui étaient affligés face à face au sujet des choses portées contre eux, mais ils étaient si hautains et si obstinés qu'ils nous méprisèrent tous, ainsi que tout conseil que nous pouvions donner. Ainsi, après quelques heures d'entretien avec eux, au cours duquel nous vîmes pleinement que leurs esprits étaient dans l'erreur, nous les quittâmes et allâmes à la réunion fixée à Millthorpe, où les amis nous attendaient. Après nous être un peu posés dans la réunion, nous rendîmes compte de la manière dont nous avions cherché à les persuader de venir, par toutes les supplications possibles, mais sans pouvoir y parvenir. Nous écoutâmes donc une seconde fois les amis, puis nous, du Yorkshire et du Cumberland, nous nous retirâmes, et entre nous examinâmes toute l'affaire car tout était par écrit, et nous ouvrîmes nos cœurs les uns aux autres. et attendant le Seigneur, une lourde préoccupation tomba sur nous pour l'amour de la vérité et de son bienheureux ordre, dans lequel notre saint témoignage avait été suscité, et qui par avait été méprisé, raillé et diffamé, de sorte que nous ne pouvions passer cela sous silence, mais dans la puissance du Seigneur Dieu, qui était redoutable parmi nous, nous portâmes jugement contre cet esprit, devenu si hautain, si relâché et si charnel, qu'il en venait à déprécier le témoignage de Dieu et la manifestation de sa sainte puissance. Après nous être acquittés, dans l'élévation et le jaillissement de la parole de vie, et avoir rédigé notre témoignage par écrit, nous le remîmes aux amis présents, puis nous partîmes. Du jugement rendu, je ne dirai pas davantage ici, parce qu'il est écrit en beaucoup d'endroits. Je passai ensuite à Suosmo et y restai pour une réunion, puis je retournai dans le Cumberland, où je demeurai quelques semaines et visitai les amis. Étant libre, je retournai encore à Suosmo, afin de traverser les sables en direction du pays de Galles, qui était devant moi. Lorsque j'étais à Suosmo, je fus poussé à aller d'abord dans le Westmoreland pour visiter les réunions qui s'y tenaient. Ainsi j'allai à Sedberg et y eus une réunion, puis j'eus une réunion à Greyrig, et je vins ensuite à Candale, où je rencontrai Robert Lodge, et nous y eûmes une réunion bénie. Le lendemain nous fûmes à la réunion de Preston, et ensuite j'étais libre de ce comté. Après quelque temps, je pris la route du pays de Galles, à travers le Lancashire et le Cheshire, et arrivant chez John Apjohn, près de Wrexham, dans le nord du pays de Galles, il voyagea avec moi. Tout d'abord, nous allâmes à une réunion trimestrielle tenue à Dolobran, chez Charles Lloyd, pour deux comtés, à savoir le Merionethshire et le Montgomeryshire, et nous y eûmes, parmi les amis, un service béni pour la vérité. Ensuite nous descendîmes dans le Merionethshire et visitâmes les réunions, puis à Mackinellis où nous eûmes une réunion. Nous remontâmes, ensuite dans le Radnorshire et visitâmes les réunions de ce comté. Puis nous prîmes la route à travers le Brecknockshire et le Carmarthenshire, vers le Pembrokeshire, où nous passâmes quelque temps parmi les amis et eûmes plusieurs réunions précieuses. Étant libres, nous prîmes la route vers Swansea et Cardiff, et eûmes plusieurs réunions précieuses dans le Glamorganshire, puis nous passâmes dans le Monmouthshire. Et après avoir visité les amis, John m'accompagna jusqu'au bac et resta pour me voir monter dans le bateau, puis il retourna. Bristol, 9 du 10e mois, 1675. Très cher bien-aimé, vous que le Seigneur a appelé et sanctifié, et choisi dans le Fils de son amour, par qui il vous a visité en cette génération, comme il visita jadis les peuples et les gentils, afin que vous partagiez son salut, la puissance de sa vie et la gloire de son royaume, avec ceux qui vous ont précédés. Je dis que c'est à cette fin que le Dieu de sagesse, dans son amour, vous a atteint dans ce pays, avec le reste de ceux d'il y a longtemps, qui ont attendu son salut, et ont cherché les richesses de son royaume selon sa propre voie. Maintenant je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, selon vos mesures, peuvent sceller la vérité des paroles du Christ, qui dit « Cherchez et vous trouverez », car comme celui qui a promis est fidèle, de même nous avons trouvé ces paroles certaines et véritables. Or mes amis, puisque c'est assurément ainsi, comme beaucoup peuvent en témoigner, qu'ils ont trouvé ce qui est éternel, ce qui appartient à la vie éternelle, ayant été guidés par ce dont la nuit et la colonne de feu dans le désert étaient la figure, que chacun avec toute diligence tienne fermement ce qu'il a reçu afin d'y croître, et d'en être guidé dans ses voyages ultérieurs dans la marche céleste, vers le bienheureux Canaan céleste, qui est encore devant vous, comme le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Observez donc le véritable but, et avancez toujours vers lui, comme le firent les apôtres et les anciens saints. Prenez garde, je vous en prie, à vous-mêmes et à l'exercice de vos esprits, de peur que votre œil intérieur ne soit détourné pour regarder un autre but, car si vous le faites, alors le prix ne sera pas le même que celui de ceux qui furent fidèles jusqu'à la mort, et qui persévérèrent jusqu'à la fin et obtinrent la couronne. Soyez donc tous vigilants, afin de tenir l'ennemi de vos âmes hors de vos cœurs, pour que règne celui qui est votre ami à jamais, celui qui cherche votre bien et apporte la vie et la paix à vos âmes, sous le gouvernement et la paisible domination duquel vous trouverez repos et joie pour votre homme intérieur. Et maintenant, mes chers amis, puisque c'est la vérité du Seigneur que vous avez reçue, et sa sainte puissance que vous avez ressentie dans ces pays, comme son peuple en d'autres lieux, demeurez avec elle et en elle avec des esprits attentifs, afin d'y vivre pour Dieu, comme ceux qui ont part à la première résurrection, afin de régner au siècle des siècles sur la puissance de la seconde mort. Et que tous se gardent des œuvres mystérieuses du malin, qui opère dans la tromperie par la ruse, sous toute apparence transformée, pour tirer l'esprit hors du centre pur, dans la vraie puissance, vers la ressemblance et l'image qui n'ont point de vie, où il ne peut y avoir ni fermeté ni véritable règne sur la volonté indocile et insensée. C'est pourquoi, mes chers amis, veillez chacun continuellement dans vos cœurs, afin de ne pas être trahis hors de cette vie pure, qui communique la vertu à vos âmes et nourrit jusqu'à la vie éternelle. Car je sais que vous avez connu le malin dans ses œuvres trompeuses, et que son dessein mauvais, le Seigneur, par sa puissance, dans sa lumière, l'a découvert à beaucoup d'entre vous, de sorte que vous avez, par là même, échappé à ces pièges funestes, et que vous vivez encore dans ce qui doit finalement régner sur tout. Demeurez dans la puissance immuable, en laquelle vous pouvez vivre pour toujours sans vous flétrir, car la puissance ne se flétrit pas, mais demeure dans sa gloire pour toujours, de sorte que le premier et le dernier, la racine et la postérité. Ceux qui ont gardé leur premier amour et sont demeurés dans leur demeure de justice, dans laquelle la puissance les a rachetés, ils témoignent encore d'une croissance de grâce en grâce, de force en force, et d'un degré de sainteté à un autre, jusqu'à devenir purement semblable à celui qui est leur Rédempteur, qui les changera et les fera passer de gloire en gloire, jusqu'à ce qu'ils portent l'image de l'homme céleste et soient semblables à celui qui est tout à fait glorieux, qui revêt richement de sa gloire son Église, qui est son peuple en ceux. Ainsi donc, vous qui avez reçu l'Esprit du Seigneur et le connaissez, suivez-le dans toutes ses directions pures avec des cœurs fidèles, car il conduira certainement tous les fidèles à connaître un accroissement de gloire. Gardez-vous de l'esprit du monde, qui n'est pas de Dieu, mais éloigne de lui. Cet esprit, là où il prévaut, fait se flétrir et se faner, et amène la stérilité sur l'âme, et les ténèbres et la mort, et alors la gloire est perdue, et l'image du céleste n'est pas portée, et nul homme, dans cet état, n'est héritier de l'héritage céleste. Il appartient donc à tous de veiller à leur position dans ce en quoi réside l'héritage, afin que nul ne vienne à manquer cette couronne que Paul disait être réservée pour lui et pour tous ceux qui aiment l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu d'amour et de paix vous garde tous dans son amour, sa crainte et sa sagesse, afin que vos demeures soient à jamais dans sa paix, que le monde ne peut ôter ni vous ravir, de sorte qu'avec le reste de son héritage, vous puissiez resplendir dans la lumière de sa gloire et demeurer dans les richesses de son royaume au siècle des siècles. Amen. Tel est le désir de mon âme pour vous tous que j'aime véritablement, et que je salue dans la vie, en laquelle je suis votre ami et frère, John Bunyan. Je me rendis ce même jour à Bristol, et j'y restai pour quelques réunions, puis je descendis dans le Somersetshire et y visitai les amis, et eus de nombreuses réunions bénies. Je revins à Bristol et y restai pour quelques réunions, puis j'allai dans le Wiltshire et le Gloucestershire, et à travers le Berkshire jusque dans l'Oxfordshire, puis dans le Worcestershire jusqu'à Worcester, et je visitai les amis et eus de nombreuses réunions précieuses dans ces comtés. De Worcester, je revins à travers le Gloucestershire et eus plusieurs réunions, puis je revins à Bristol, de là je pris la route à travers plusieurs comtés visitant les amis, et ainsi j'arrivai à Londres, où je passai quelque temps au service et à l'œuvre de l'Évangile. Étant libre, je pris la route du Nord, et ne m'arrêtai guère en aucun lieu, jusqu'à ce que j'arrivasse dans le Cumberland. La raison de ce voyage ainsi pressé était à cause d'une réunion, convenue par les amis, devant se tenir à Drawell dans la paroisse de Sedbergh au sujet du différend précédent, qui avait été entendu à Powbank, principalement occasionné par les susnommés John Story et John Wilkinson, et une sorte de gens relâchés qu'ils soutenaient dans une liberté que la vérité n'autorisait pas, et qui ne pouvaient donc être tolérés par des amis sensibles, zélés pour la vérité, qui gardaient leur premier amour. Ceux-ci prenaient plaisir à soutenir cet ancien témoignage pour le Seigneur, contre les prêtres et leurs dîmes, leurs gages et leur entretien, avec d'autres choses dont il fallait rendre témoignage au travers des souffrances, ainsi que pour l'assemblée afin d'adorer Dieu, ce qui dès le commencement avait été notre pratique, bien qu'il y eût de nombreuses lois prévoyant des peines contre nous pour cela, par crainte de quoi les John Story et John Wilkinson, avec ceux qui avaient laissé entrer la même crainte par des raisonnements charnels, se rétractaient. Ainsi, à cause d'un manquement en beaucoup de choses, et du plaidoyer en faveur d'une liberté hors de l'exercice de la croix, afin que son offense cessât, les fidèles se sentirent concernés de s'élever contre cet esprit, qui semblait devoir ainsi affaiblir ou renverser la foi et le témoignage de plusieurs, par ses œuvres subtiles en et par beaucoup, lesquels, comme ce contre qui l'apôtre écrit dans son épître aux Galates, cherchant à éviter la persécution, s'efforçait de ramener les croyants sous la circoncision, afin que l'offense de la croix cesse. Or ce différend continuant encore, et eux demeurant obstinés, ne voulant ni recevoir conseil ni supporter le jugement rendu sur eux dans la vérité, les amis, par condescendance pour voir s'ils pourraient être gagnés, fixèrent une réunion à Drawell, près de Sedbergh, afin qu'ils eussent une autre occasion d'être entendus sur ce qu'ils pouvaient encore dire. Alors les affaires furent pleinement examinées devant plusieurs anciens frères fidèles qui s'y étaient assemblés. Ils passèrent 4 jours à entendre et à traiter les matières relatives à ce différend, occasionnées par l'opposition de ceux-là au bienheureux ordre de la vérité, qui résistèrent aux soins pieux des amis pour la préservation de sa domination en justice. Quand toutes choses eurent été entendues et examinées par les frères, le jugement fut de nouveau rendu dans la puissance du Seigneur contre cet esprit qu'ils avaient laissé entrer, par lequel ils avaient été conduits à une séparation et à une division, et à une opposition à la vérité, à son saint ordre et témoignage, et dans la même puissance et le même amour, avec de grandes entrailles et une grande tendresse, on chercha à les amener à revenir à cet esprit d'amour et de paix, en lequel consiste l'unité et la communion du véritable corps. Mais hélas ! Beaucoup d'entre eux ne voulurent ni se laisser travailler ni se laisser convaincre, mais, dans cette dureté où l'ennemi avait façonné leur cœur, persistèrent jusqu'à devenir des ennemis déclarés de la vérité et de ses fidèles témoins, allant même jusqu'à écrire et imprimer publiquement contre et contre sans quoi la vérité conduit, et ils sont ainsi devenus tels que l'apôtre en parle, qui résistèrent fortement à leurs paroles et les méprisèrent, à propos desquels Paul, Pierre, Jean et Jude ont écrit. Cette réunion à Drawell eut lieu au second mois 1676, après que les amis eurent fait tout ce qui pouvait être fait en ce temps-là, par de saints efforts pour la réconciliation et le rassemblement dans l'unité céleste, et pour réparer la brèche, je revins de là dans le Cumberland avec plusieurs frères, à savoir J. T. J. Sulikve, Hugh Tickill, Thomas Lees, John Steele, et je passai un peu de temps dans le Cumberland, puis je pris la route de Londres avec John Tiffin. En chemin, nous passâmes dans le Westmorland pour y visiter les amis, où nous rencontrâmes certains de ceux avec lesquels nous avions eu affaire à Drawell, et alors ils s'étaient endurcis en résistant au conseil du Seigneur, et avaient établi une réunion séparée, et ainsi s'étaient engagés dans l'autoséparation, et s'étaient davantage enfoncés dans l'inimitié, et raffermis dans l'opposition en résistant à l'amour de Dieu, qui leur avait été si richement tendu dans les entrailles célestes, lesquelles, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, avaient. Car la puissance du Dieu éternel apparut en grande majesté, et dans une crainte grave, le jugement fut établi et scellé sur cet esprit par lequel ils avaient été trahis. Et par la même puissance et la parole de vie, une porte fut ouverte à ceux qui avaient été trahis, et une entrée leur fut mise devant eux, et on les rechercha avec beaucoup de brisement et de tendresse dans la puissance de l'amour, pour qu'ils reviennent et se réconcilient avec Dieu et avec son peuple. Mais cette grande visitation ayant été rejetée par eux, ils s'endurcirent de plus en plus, jusqu'à devenir, beaucoup d'entre eux, comme dit plus haut, des ennemis de la croix du Christ, et ainsi ils se flétrirent quant à leur état spirituel, et devinrent comme certains d'autrefois dont l'apôtre parla, comme des arbres deux fois morts déracinés. Du Westmorland, je passai dans le Yorkshire, eus une réunion à Sedbergh, et traversai les dalles jusqu'à Masham, visitant les amis de la région, puis J.T. Et moi, avec Robert Lodge, prîmes la route de York et de là vers Londres, visitant les amis en chemin, et ainsi nous arrivâmes à la réunion annuelle de l'année 1676, où beaucoup de frères fidèles étaient assemblés de la plupart des régions de la nation. Parmi beaucoup de sujets de préoccupation touchant la vérité et les églises du Christ, la division du Westmorland fut exposée devant la réunion, et comment ils s'étaient endurcis et avaient établi une réunion séparée, se retirant ainsi du reste de leurs frères et rompant la communion chrétienne, ce que les frères assemblés, l'ayant compris, ressentirent comme un chagrin. C'est pourquoi sous ce sentiment, et dans cet amour fraternel dont leur cœur était rempli envers eux, deux épîtres furent écrites depuis la réunion. L'une à John Story et John Wilkinson, les avertissant et les conseillant, comme tête et meneur de cette sédition et de ce schisme, de s'efforcer de dissoudre cette réunion séparée et de se réconcilier avec leurs frères avant d'aller offrir leurs dons. Et l'autre fut écrite à la réunion, comme conseil de retourner à leur communion précédant avec les amis, d'abandonner cette réunion séparée. Mais tout cela ne les gagna point, au contraire, ils devinrent toujours plus hautains et plus endurcis, et poursuivirent les fermes résolutions de leur volonté. Toutefois, il y eut beaucoup d'individus qui, pendant un temps, avaient été impliqués dans cette opposition et cette séparation. Le Seigneur ouvrit leur entendement, de sorte qu'ils virent le piège de l'ennemi et revinrent, et sous le sentiment des jugements du Seigneur, ils publièrent de nombreux témoignages par écrit contre cet esprit par lequel ils avaient été séduits, confessant l'erreur où ils avaient été conduits. Et ainsi ils retournèrent à la véritable communion et unité de l'Église du Christ, et furent reçus avec joie. Gloire au Seigneur, qui est le Sauveur et le Guérisseur de son peuple, qui maintenant guérit et sauve par sa parole, comme il le fit autrefois, épître aux amis du Cumberland. Taunton, 7 du second mois, 1677. Mes très chers amis, à vous mon amour et ma vie s'étendent et s'écoulent purement en ce qui vit à jamais, en quoi dans l'innocence et la vie de justice je vous salue tous véritablement, vous que le Seigneur a suscité et appelé pour être une part des prémices pour lui-même en ce jour qui est le nôtre, dans lequel il a révélé un reste la gloire de sa vie cachée, ce qui demeure caché aux sages et prudents de ce monde, et pour ceux qui retournent à cette sagesse-là, cela redevient voilé de sorte qu'ils perdent de nouveau la lumière de sa gloire. Bienheureux tous ceux qui gardent leur demeure dans cette puissance qui ne change ni ne se corrompt jamais. La gloire des choses célestes demeura devant leurs yeux, par quoi leurs cœurs seront élargis vers le Seigneur, tant en amour pour lui qu'en étant un peuple vivant pour son honneur en toutes choses, afin que son nom soit exalté et que le témoignage de sa vérité dans sa propre nature pure soit maintenu en tout selon sa clarté et sa gloire, comme par la puissance d'Aïssel nous fûmes suscités au commencement, à mesure que la vie de sainteté croissait en nous, chers amis, ce qui nous vivifia et nous releva d'entre les morts jadis, par quoi nous. Vous savez que vivre hors de cela, personne ne sera considéré par lui, quand bien même vous feriez beaucoup, car il ne les considéra pas aux jours anciens, pour tout ce qu'ils pouvaient faire, ce qui ne demeurait pas dans la vie de justice, quoique leur chemin pût aller loin, jusqu'à couvrir l'autel de larmes. Ainsi donc, comme je l'ai dit, ce par quoi vous fûtes d'abord vivifiés et relevés, c'est ce en quoi, à jamais, nous devons être agréés, de sorte que chacun doit y prendre garde et attendre un accroissement, et éprouver la croissance de ce en quoi il y a un mouvement vers le haut, d'un état d'enfant à une croissance plus avancée. Cela demeure toujours dans la même nature, sans dégénérescence d'avec ce qui fut d'abord, et ainsi le premier est témoigné comme étant le dernier, et vous croissez de plus en plus jusqu'à la plénitude du Christ, en qui habite toute plénitude. C'est pourquoi, mes très chers bien-aimés, dans toutes vos réunions pour la cause de la vérité, ayez l'œil à cela, et attendez la jouissance de la puissance bénie, céleste et brise-cœur du Seigneur Dieu parmi vous, afin que vos cœurs en soient brisés et vos esprits fondus en véritable amour et contrition, et que vous soyez préservés dans cet état. Alors vos cœurs seront élargis dans la sagesse céleste, pure, pacifique, douce et facile à fléchir, et dans cette sagesse et cette puissance en vous tous, toutes vos œuvres subsisteront pour l'honneur de Dieu et la consolation les uns des autres, et vos yeux seront toujours tournés vers l'avancement de la vérité en justice, maintenant votre ancien témoignage, dans lequel Dieu vous a suscité par sa puissance dans les années passées. Dans la vie et la puissance de Dieu, vous maintiendrez sous vous et affaiblirez ceux qui voudraient s'élever pour fouler aux pieds son saint témoignage, et vous maintiendrez ainsi la maison et la famille de Dieu dans l'ordre, et vous vous tiendrez à la croix à l'égard de ceux qui voudraient sortir dans une liberté charnelle, pour rendre vaine la croix du Christ, par laquelle nous avons été crucifiés au monde, et le monde à nous. Car ce qui voudrait être hors de la croix est la même chose que ce qui conduirait de nouveau dans le monde, et ainsi ferait naufrage quant à la foi et à une conscience délicate, et mènerait de nouveau à la témérité, à la dureté, à l'entêtement et au relâchement, et alors ils apostatent de la vie de Dieu qui est en eux, et deviennent réprouvés quant à la foi, et ainsi, en abandonnant leur premier amour, perdent à la fin leur récompense. Les véritables anciens, hommes et femmes âgés, doivent porter ce souci à l'égard des plus jeunes, afin que tous soient préservés dans le premier amour et le premier zèle, pour que nul ne perde cela ni ne recule dans une liberté charnelle, vers la sagesse d'en bas, qui ne jaillit pas de ce don céleste et n'en procède pas, et qui ne peut garder les cœurs purs comme le fait le céleste. Vous savez que c'est le don de la puissance céleste qui nous a d'abord vivifiés et fait vivre pour Dieu, et vous savez que c'est le même qui garde nos cœurs tendres et vifs, par lequel nous vivons à jamais. Car la vie que nous vivons maintenant est par la foi en celui qui est la puissance de Dieu, et nous nous nourrissons de lui, et sa chair est du pain selon ses propres paroles, car il est le pain vivant qui est descendu de Dieu, et qui descend encore. Prenez donc garde à cela, attendez-le, tenez-vous pour lui, et ne vous affamez pas de nouveau sur les montagnes stériles de vos propres imaginations, où ce pain de vie ne se trouve pas. Chers amis, maintenez vos réunions d'hommes et de femmes dans la crainte et la puissance du Seigneur, et demeurez dans le saint souci où vous pouvez sentir votre préoccupation dans le corps, et éprouvez votre place et votre charge, chacun de vous, soyez zélés pour la justice au particulier et au général, et le Seigneur sera avec vous comme il l'a été, j'en suis témoin, car nul ne demeure plus longtemps dans la vérité et l'amour qu'il ne demeure dans la justice, quoi qu'il puisse faire profession. Ne vous découragez nullement dans votre œuvre pour le Seigneur et sa vérité, à cause de l'esprit qui voudrait jeter un faible crédit sur votre saint souci et l'ordre pieux dans la vérité, car il est de même nature que celui qui, en tous âges, s'est efforcé de ravager l'héritage de Dieu et d'entraver son œuvre, et qui a mis des pierres d'achoppement sur le chemin du peuple voyageur de Dieu, afin de le faire tomber et de le faire retourner en arrière. Le Seigneur ruinera tout désir de ceux qui, en cette affaire, laissent entrer cet esprit, et fera prévaloir sa vie sur lui, et y préservera son peuple, afin que, dans cette vie et cette liberté céleste, il le serve et le loue, lui qui vit à jamais, et qui est éternellement digne, à qui soit gloire et domination au siècle des siècles. Cher cœur, étant vivant dans mon souvenir, ainsi que les saisons célestes que nous eûmes ensemble lorsque j'étais pour la dernière fois avec vous, mon cœur est rempli d'amour envers vous, et en cela je vous envoie ces quelques lignes, comme un salut et une tendre salutation, afin que vous sachiez que vous demeurez dans mon souvenir, comme je crois demeurer dans le vôtre. Que le Dieu d'amour et de paix vous garde tous dans son amour et sa crainte jusqu'à la fin, afin que votre part soit avec lui dans son royaume éternel, où il n'y aura point de tristesse, mais où vous pourrez demeurer dans la joie à jamais. De votre ami et frère dans la communion de l'Évangile, John Bunyan Journal. Continuer le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.